si je les retrouve. Pierre Marandon sera représenté par Christian de Mongin, Rémi Grand par Daniel Maire, Damien Gaudier par Marie-Claire Bilbor, Aline Triolet par Pascal Marniquet, Nicole Lesage par Jean-Michel Lorca, Jean-Paul Angers par William Richard. Sébastien Durançois arrivera en retard et Hélène Perrin a donné son pouvoir à Marc Lefebvre jusqu'à son arrivée. Hein, je crois que c'est ça. Bon. On va la croire sur parole. Alors, le premier point de l'ordre du jour concerne le secrétaire de séance. La tradition veut que le plus jeune membre de l'Assemblée, c'est toujours Astrid. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous en arrivons au rapport 2.1 qui concerne le rapport annuel sur l'égalité hommes-femmes 2017. Christine.
Pardon. Donc, dans ce rapport, il s'agit de vous présenter des statistiques qui présentent la répartition des effectifs municipaux permanents. N'entrent pas dans ces statistiques les effectifs non permanents, puisqu'ils sont soumis à des variations trop importantes. Donc, de la répartition des hommes et des femmes, et vous permettent aussi de pouvoir comparer avec les chiffres nationaux de la fonction publique territoriale. Donc, dans ce rapport, vous avez pu remarquer qu'à compétences et expériences égales, la parité est favorisée au sein des équipes et des services de la ville, puisque en ce qui concerne l'ensemble des personnels titulaires, les femmes représentent 49% et les hommes 51%. Par contre, on remarque aussi que certains métiers restent genrés, hein, c'est le terme qui est employé, notamment le service petite enfance qui est très, très féminisé, et puis les métiers à vocation technique qui, eux, sont plus masculins. Par contre, vous remarquerez également que l'équipe de direction et les postes de chefs de service sont majoritairement féminisés, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Voilà.
Je mérite une médaille, du coup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ? C'est la première fois qu'on présente ce rapport, hein, puisque c'est une disposition assez récente du Code général des collectivités territoriales. Bon, on a présenté les données que nous avons. Il va de soi que ces données s'enrichiront d'année en année, puisque au fil des ans, au fil des bilans sociaux, on pourra développer cet aspect de la composition du personnel municipal. Pas de questions, pas d'opposition. Je crois que pas qu'on vote, d'ailleurs. Je crois que c'est simplement une information. Je vous remercie. Nous passons au rapport 2-2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous l'avez compris, il s'agit de l'adoption des budgets primitifs 2018 et budget annexe. Mes chers collègues, à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire de décembre dernier, nous avons longuement évoqué le contexte financier dans lequel s'est déroulé le travail de préparation du budget qui est soumis ce soir à l'examen du Conseil municipal. Ce contexte, il dépend bien sûr très largement de la loi de finances qui a été votée en décembre. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, si ce n'est pour indiquer que l'année 2018 sera marquée de ce côté par une poursuite de la baisse des dotations versées par l'État à notre collectivité, même si cette baisse est moins importante que les années précédentes, compte tenu des orientations qui ont été fixées par le gouvernement. Christine Mazzi en fera tout à l'heure une mise en perspective très claire, permettant de mesurer pleinement ce désengagement qui est continu depuis 2012. Face à cette situation, nous avons fait le choix cette année encore de ne pas utiliser le levier fiscal pour augmenter nos recettes. Ainsi, j'insiste sur ce point, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition locaux en 2018 pour la 13e année consécutive. C'est évidemment un choix politique fort que nous assumons pleinement, conscient que le niveau des prélèvements obligatoires à l'échelle de notre pays peut être un frein au redémarrage de notre économie en pesant sur le pouvoir d'achat. C'est donc sur la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et la recherche de financement extérieur qu'on continue de porter nos efforts pour accroître nos marges de manœuvre. À ce titre, notre autofinancement est un bon indicateur des efforts qu'élus et services municipaux ont produits. Pour l'année 2018, cet autofinancement atteint le montant appréciable de 5,2 millions d'euros. La répartition des sources de financement de nos dépenses d'équipement est également révélatrice du travail accompli. 30% de celles-ci sont financées par des participations sur projet, autrement dit des aides externes, notamment des subventions, et 34% par nos ressources propres, ce qui ne laisse que 36% à la charge de l'emprunt. Même si le contexte des marchés reste aujourd'hui encore très favorable en la matière, nous continuons de recourir à l'emprunt avec modération, Comme nous l'avons déjà vu, notre encours de dette est tout à fait maîtrisé, tant en ce qui concerne son montant que la nature particulièrement sûre des emprunts mobilisés. Notre capacité de désendettement, qui s'établit à 6,9 années pour la ville et ses annexes, traduit en particulier cette maîtrise de notre dette et la bonne santé financière de notre collectivité à comparer avec les capacités de désendettement d'autres collectivités qui présentent des taux bien plus inquiétants. Au final, ces efforts nous permettent de maintenir un haut niveau d'investissement. Ainsi, en 2018, les dépenses d'équipement seront supérieures à 15,3 millions d'euros. C'est le plus haut montant d'investissement atteint depuis le début du mandat et qui est d'ailleurs supérieur au niveau annoncé lors du débat d'orientation budgétaire. Cette progression est due à des subventions confirmées depuis lors. Je pense notamment à des aides de l'Agence de l'eau, à des aides de l'agglomération ou du département, au contrat de ruralité et à des aides du projet territoire énergie positive pour la croissance verte, non encore perçues. Elle prend aussi en compte le mécénat pour le musée à une hauteur estimée à 800 000 euros et des cessions, dont celle d'une parcelle située à avenue Foch au bénéfice de l'association des Papillons Blancs. L'exercice budgétaire 2018 va constituer une étape importante pour deux chantiers engagés par notre collectivité, qui sont deux chantiers assez majeurs à l'échelle du mandat. Le premier concerne l'un des projets majeurs du mandat en cours, qui est la réhabilitation du château Perrier, dont nous avons abondamment parlé, pour permettre l'ouverture du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à l'horizon de la fin du deuxième semestre 2019. Ce projet dépasse le site même du château Perrier, puisqu'il a nécessité également la réalisation préalable, comme vous le savez, d'un centre de conservation autonome implanté dans le quartier de la Villa et qui sera achevé dans quelques semaines. Je précise qu'il accueillera les collections du musée pour permettre la restauration du château Perrier et de son parc. Après les travaux préparatoires menés l'an dernier, la restauration du château Perrier va débuter au printemps. S'agissant d'un monument historique emblématique des Pernets, mais aussi d'un style architectural éclectique caractéristique du XIXe siècle, le chantier s'annonce complexe et nécessitera l'intervention d'entreprises spécialisées. Cette exigence est imposée par le statut de monument historique, évidemment, de ce bâtiment. D'un point de vue budgétaire, le budget 2018 intègre une dépense de un peu plus de 8 millions d'euros et des recettes à hauteur de 3,88 millions d'euros, 2 millions provenant de la hausse de notre encours de dette annoncée lors du débat d'orientation budgétaire, ainsi que 1,88 millions sous forme de subventions et de mécénat. Après la Maison Paul Roger, qui a souhaité apporter sa contribution au financement du futur parc du château, d'autres acteurs importants de la Champagne devraient confirmer leur soutien dans les jours qui viennent et semaines qui viennent. Les prochains conseils municipaux seront l'occasion d'en parler plus précisément. Dès à présent, je vous indique également que lors de l'affectation du résultat 2017 en juin prochain, nous consacrerons 1,2 million d'euros supplémentaires au projet de musée sur la base, du résultat de l'année 2017 et de l'excédent de cette année. Autre chantier important qui impacte depuis une quinzaine de jours les déplacements de nombreux Sparnassiens et de personnes se rendant à Épernay, je veux bien entendu parler de la deuxième phase du réaménagement de l'avenue Jean Jaurès, qui vient de débuter. Elle va concerner la section comprise entre la rue Pasteur et la rue des Semonts. C'est une opération complexe, portée par la ville, mais aussi par l'agglomération et le département. Nous rappelons qu'il s'agit bien d'une route départementale, même si nous ne contentons pas dans cette opération de refaire la route. Nous en profitons pour refaire l'intégralité des réseaux humides et secs et en même temps de refaire cette entrée dans sa globalité, ce qui vient donc ajouter aux travaux du département des travaux assez conséquents. Je voudrais remercier tout d'abord les riverains, mais aussi les Sparnassiens concernés pour leur compréhension face aux nuisances que génère tout chantier important. Effectivement, c'est une période troublée, c'est une période qui va amener les uns et les autres à modifier leur parcours quotidien, mais en même temps, nous avons tous le souci de requalifier cet axe d'entrée majeure à Épernay. C'est important pour les Sparnassiens, pour celles et ceux qui viennent tous les jours travailler à Épernay, c'est important aussi dans le cadre du développement touristique de notre ville. En 2019, nous aurons aussi, grâce à l'aménagement de cette avenue Jean Jaurès, un espace public mieux organisé, plus élégant et qui permettra aussi de mieux maîtriser la vitesse des véhicules, qui est aujourd'hui un problème, aussi bien dans le sens descendant que dans le sens montant. Sur l'exercice 2018, la seule avenue Jean Jaurès représente un coût supérieur à 600 000 euros. Cette année, l'ensemble du budget consacré, quand je parle de 600 000 euros, je parle bien du budget de la ville. Hein, il y a évidemment un budget important également au niveau de la communauté d'agglomération. J'ai pas le total des deux sommes, mais c'est assez conséquent et on pourra l'examiner très prochainement dans le cadre du budget de la communauté d'agglomération. Cette année, l'ensemble du budget consacré à la voirie sera d'un montant de l'ordre de 1,6 million, soit 200 000 euros de plus qu'en 2017. Outre l'avenue Jean Jaurès, on peut citer également la requalification de la rue des Côtes dans sa section entre l'avenue de Franche-Comté et la rue Francis-Poulenc. C'est un projet que nous avions annoncé après l'achèvement de la construction des deux micro-quartiers de Bernon-les-Sources. Ce ne sont pas à proprement parler des quartiers, mais ce sont deux projets immobiliers qui se situent très proches l'un de l'autre. Je précise également que nous poursuivrons un programme de voirie important dans le secteur Rosemont, puisque, comme vous le savez, l'ancien quartier Beausoleil a disparu. Le quartier Rosemont va connaître une phase importante de sa renaissance cette année, et nous accompagnerons évidemment le programme de voirie de la renaissance de ce quartier. Je rappelle également que sur le quartier Rosemont, la communauté d'agglomération est intervenue sous la forme de travaux hydrauliques importants qui vont permettre la reconstruction d'une centaine de logements dans ce quartier, ce qui en fera évidemment un nouveau quartier où les gens prendront plaisir à vivre, parce que c'est un site tout à fait intéressant, bien situé parce que situé à proximité de beaucoup d'équipements collectifs et qui est donc à vocation à retrouver vie très rapidement. En matière d'aménagement urbain, deux autres secteurs de la commune vont aussi faire l'objet d'évolutions majeures dans un laps de temps plus ou moins long. Je citerai en premier lieu le futur quartier des Berges de Marne qui, pendant plusieurs décennies, va prendre forme à la place des anciens ateliers SNCF, dont les constructions les plus qualitatives seront préservées et intégrées dans son aménagement. En 2018, notre priorité consistera à poursuivre le travail de maîtrise d'œuvre urbaine commencé l'an dernier pour préciser les principes d'aménagement du futur quartier. Il s'agit notamment d'y adjoindre une préétude concernant la passerelle qui, à terme, connectera ce quartier au centre-ville d'Épernay. Le coût de l'ensemble des études représentera un budget de 285 000 euros en 2018. Nous allons solliciter l'État et d'autres partenaires pour nous accompagner dans ce projet qui est véritablement un projet structurant pour la ville. La question de l'aménagement du Jard va également connaître cette année une actualité nouvelle. Dès l'an dernier, nous avons chargé un architecte urbaniste d'accompagner la collectivité dans sa réflexion sur ce secteur et je pense que nous pourrons vous présenter ses conclusions d'ici quelques semaines. Ces réflexions intègrent évidemment l'aménagement de la plateforme du futur ballon captif dont les travaux, vous l'avez vu, ont commencé il y a quelques jours. Pour un coût de 363 000 euros sur le budget 2018, une surface imperméabilisée de 3600 m² va être remplacée au printemps par une plateforme engazonné. Ce projet comprend également d'importants travaux de végétalisation. Il s'agit donc d'un premier pas vers la reconstitution d'un parc urbain sur la plus grande partie de l'emprise de l'actuelle esplanade Charles de Gaulle. Sa future évolution devra également prendre en compte la problématique du stationnement. Nous y travaillons actuellement et lors de la présentation de l'étude d'urbanisme qui sera faite dans quelques semaines, nous pourrons détailler nos propositions en la matière. Le réaménagement du Jard fera partie des éléments intégrés dans le futur plan local d'urbanisme qui sera soumis à enquête publique d'ici l'été, avant que le conseil municipal ne se prononce. Une démarche similaire concernera également notre futur site patrimonial remarquable. Le sigle SPR doit maintenant être intégré dans toutes les mémoires. Il remplace la VAP qui remplace elle-même la ZPPAUP. Ce n'est pas nous qui cherchons la complexité en la matière, mais le législateur qui prend un malin plaisir à changer régulièrement les appellations pour des situations qui sont comparables l'une à l'autre. Autre secteur qui, l'an dernier, a connu une évolution mettant en valeur le milieu naturel et plus particulièrement le Cubry, la Coulée verte va inclure cette année un nouvel aménagement. Celui-ci va permettre de la relier à l'avenue Paulbert et dotera Épernay d'un équipement qui lui fait actuellement défaut. Je veux parler d'une aire d'accueil pour les camping-cars. C'est un investissement important pour la ville, mais c'est également absolument nécessaire. Quand on veut avoir une ambition touristique, on se doit d'offrir des capacités d'accueil aussi bien sur le plan hôtelier que sur le plan du camping, mais également sur le plan des camping-cars. Et je précise d'ailleurs que la livraison de ce nouvel équipement ne se fera pas au détriment du camping, puisque nous continuerons cette année, pour un montant de 52 000 euros, à poursuivre la modernisation de ce camping avec l'achèvement de la rénovation de l'éclairage public, la mise en place de nouvelles bornes électriques ou encore des travaux d'amélioration concernant la sonorisation. En matière de développement durable, la ville va poursuivre la démarche qui structure son action depuis plusieurs années et le budget 2018 va vous en apporter quelques illustrations. Il verra d'abord la mise en œuvre de 6 projets proposés par les Sparnassiens l'an dernier et qui ont été retenus par un vote citoyen dans le cadre du budget participatif. Les investissements ainsi réalisés cette année représenteront une somme globale de 100 000 euros. Je voudrais revenir sur cette opération qui a été une première pour nous, qui a été une réussite, puisque plus de 900 Sparnassiens ont voté pour les différents projets. L'enveloppe de 100 000 euros va permettre la réalisation de 6 projets, ce qui est important. Et la démarche est un succès dans la mesure où elle a démontré qu'il est loin d'un éventuel désintérêt des habitants de la ville pour leur cadre de vie. Au contraire, on a senti une forte mobilisation des Sparnassiens, aussi bien pour faire preuve d'imagination, et je pense à ceux qui ont proposé des projets, que pour ceux qui se sont contentés, j'allais dire, de choisir parmi les... combien y avait de projets déjà, une vingtaine ?
Il y avait 21 projets déposés, mais 15
éligibles. Parmi les 15 projets éligibles. Au regard de l'écho favorable rencontré par la démarche, il s'agira à nouveau de proposer cette démarche en 2019 avec de nouvelles idées d'aménagement de l'espace public. En 2018, pour 2019, évidemment. Autre dossier important en matière de développement durable, la collectivité va utiliser la cession de ses certificats d'économie d'énergie, autant dire les C2E, pour financer d'importants investissements. Nous avons évoqué ce dispositif lors du Conseil de décembre dernier. Par ce biais, nous allons financer une part très importante des frais correspondant au remplacement de chaudières datant, pour la plupart d'entre elles, des années 90. Je parle des chaudières des écoles ou des bâtiments municipaux. Mais nous allons aussi contribuer à l'isolation du château Perrier et au remplacement de candélabres d'éclairage public. En résumé, pour un coût de 942 000 euros de travaux, nous allons pouvoir mobiliser 823 000 euros de recettes, ce qui représente un taux de subventionnement de plus de 87%. Je ne vous cache pas que si on pouvait faire la même chose dans tous les domaines, ce serait évidemment une formidable bouffée d'oxygène et un avantage considérable. Mais en tout cas, je voudrais ici remercier Jonathan et à travers lui toutes les équipes qui, depuis plusieurs années, contribuent à apporter à notre ville une véritable crédibilité en matière de développement durable. Ça nous permet de bénéficier de subventions importantes. Je pense notamment aux subventions que nous avons touchées sur l'autopartage qui était tout à fait conséquente, de l'ordre de 80%. Ça nous permet également aujourd'hui de mobiliser des certificats d'économie d'énergie et ça nous permet toujours, au-delà de ça, d'être dans les bons coups, c'est-à-dire d'être en phase avec les projets publics, les appels à projets qui sortent. Je pense notamment à un projet également très important que j'ai évoqué dans mon discours de vœux, qui est le projet Epsivin, qui va faire de la filière champagne l'une des premières filières intégrées, soutenues par la région Grand Est, par l'ADEME, par la Chambre de commerce et d'industrie, par le comité champagne et par le club des entrepreneurs champenois pour faire de la filière champagne une filière d'économie circulaire, un modèle d'économie circulaire qui, je l'espère, sera dupliqué par d'autres filières industrielles ou économiques. En matière de solidarité, en l'occurrence entre générations, le principal projet en 2018 va être le démarrage des travaux de la résidence Galis en avril prochain. Ce projet, particulièrement bien financé grâce à des aides de la CARSAT Nord-Est, sera livré en 2019. Il regroupera des logements adaptés pour le troisième âge et le pôle d'animation senior. Sur l'exercice 2018, il représentera une somme de 570 000 euros. Un crédit de 100 000 euros sera également consacré à la poursuite de la rénovation des appartements de la résidence du Cèdre, puisque depuis plusieurs années, chaque année, nous votons 100 000 euros pour refaire un certain nombre d'appartements. Je voudrais à ce niveau remercier l'implication, l'investissement d'Annie et de Candy, notamment, mais également du CCAS, qui, se sont démenés pour obtenir des financements tout à fait exceptionnels. Et le projet a convaincu, puisque les financements de la CARSAT Nord-Est n'étaient pas gagnés d'avance, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le caractère innovant du projet, son degré de modernité et de technologie embarquée, si je puis dire, qui nous a permis d'obtenir de tels financements. Et j'en suis sûr qu'il recevra le succès escompté auprès de nos seniors désireux de trouver des solutions alternatives à l'entrée dans les maisons de retraite. Vous savez que l'accompagnement des personnes âgées qui vivent souvent seules chez elles est un vrai problème, que bon nombre d'entre elles ne peuvent plus nécessairement vivre seules et cherchent une forme de logement un peu plus sécurisée que ce qu'ils vivent chez eux ou chez elles. Et la résidence senior, la résidence Galis, leur offrira des opportunités qu'elles ne manqueront pas de saisir, j'en suis sûr. S'agissant des autres générations, l'action sera bien sûr poursuivie en direction de la petite enfance et du domaine scolaire. Outre le financement de leur fonctionnement, des travaux de maintenance concerneront aussi les crèches Tiercelin et Tom Pouce. Ils contribueront au renouvellement de matériel informatique et numérique en milieu scolaire. Et enfin, pour accompagner l'évolution des programmes, nous aurons une dotation importante concernant le renouvellement des manuels de classe élémentaire pour un montant global de 15 000 euros. Les actions en direction de la jeunesse reposent à la fois sur le point d'information jeunesse, sur les centres sociaux et culturels de la ville et dans le cadre d'une démarche participative, sur les travaux de la commission jeunes. En 2018, un budget de 15 000 euros sera ainsi mobilisé pour accompagner les projets des jeunes sparnassiens. Parmi les nouveautés, une somme complémentaire de 5 500 euros sera consacrée à l'accueil des jeunes de nos villes jumelles d'Ettlingen et de Middelkerk, engagés dans un projet Erasmus+, concernant certains de leurs établissements secondaires. Cet accueil à Épernay favorisera peut-être la participation à terme d'établissements sparnassiens à ce dispositif. Pour avoir été en contact avec le lycée Stéphane Hessel, il est partant sur cette initiative, mais il était déjà pré-engagé avec un autre dispositif. Et donc, je pense qu'à partir de la rentrée 2018, septembre 2018, le lycée Stéphane Hessel pourra rejoindre le dispositif Erasmus+, qui permet, je vous le rappelle, des échanges scolaires à l'intérieur de l'Europe. Car l'approfondissement du sentiment européen passe aussi par de tels échanges. Nous le mesurerons également cette année en célébrant le 65e anniversaire des liens qui nous unissent à Ettlingen. Vous avez fait le calcul par vous-même. Ces liens datent de 1953 et il est parfaitement justifié que nous puissions célébrer comme il se faut ce formidable jumelage. Pour revenir sur le thème de la jeunesse, nous maintiendrons bien sûr les actions qui ont fait leur preuve comme la carte jeune, le BAFA à coût zéro, la bourse au permis de conduire pour un montant de 25 000 euros ou encore pour les aides aux étudiants sparnassiens données grâce au legs de Mme Riguron, sans oublier l'accueil au sein de nos services de volontaires en service civique. Dans un autre domaine, l'accessibilité, la mise aux normes des bâtiments municipaux se poursuivra en 2018. Elle représentera un budget de 148 000 euros et concernera des équipements sportifs, le service des archives ou encore la ferme de l'hôpital. En matière de solidarité, le CCAS est un acteur local majeur par les domaines dans lesquels il intervient et les aides qu'il apporte. En 2018, le CCAS disposera d'un budget global de 8,39 millions d'euros pour lequel la ville versera une subvention d'un peu plus de 3 150 000 euros. Par ailleurs, contribuant également au lien social, tout comme à l'animation d'Épernay, les associations locales vont connaître une légère progression du volume total des subventions municipales. En prenant en compte les subventions versées par le biais du CCAS, les aides apportées par la collectivité représenteront un montant global de 2 770 000 euros. Je passe sur les chiffres, le troisième chiffre après la virgule, évidemment. L'année 2018 constituera un temps fort dans le domaine sportif. Outre la traditionnelle fête des sports organisée tous les 2 ans, mais qui aura lieu par projet menu, des investissements importants seront réalisés. Le développement de la pratique du football féminin, tout arrive, rend nécessaire l'extension du vestiaire du terrain Marcel Hubert. Je dis tout arrive parce que longtemps, le football a été présenté comme un sport exclusivement masculin et il y avait même eu des commentaires célèbres de journalistes sportifs qui leur avaient valu d'être appelés à l'ordre parce qu'à l'époque, ils considéraient que le foot n'était pas un sport de femmes. Nos jeunes sparnassiennes sont en train de démontrer l'inverse puisque le succès du football féminin à Épernay va nous amener à étendre le vestiaire du terrain Marcel Hubert pour un montant de 170 000 euros. Il n'était pas question évidemment de faire en sorte que femmes et hommes se mélangent dans les vestiaires, d'où la nécessité d'avoir des vestiaires séparés. Nous aurons également les travaux concernant une modernisation du circuit de chauffage et la reprise des marquages qui permettra de requalifier le gymnase Beethoven. Dans le domaine culturel, le futur musée mobilisera évidemment l'essentiel de nos moyens, s'agissant du projet majeur de ce mandat, et les moyens mobilisés seront importants cette année, ils le seront également l'année prochaine. Pour sa part, le réseau de lecture publique va continuer d'étoffer son offre numérique. En complément de son nouveau site Internet, il va être doté d'une bibliothèque numérique, rendant accessible au plus grand nombre son fonds ancien numérisé, et ça représente un investissement de 18 000 euros. Pour ce qui concerne les animations culturelles, je pense au festival Voilà l'été, aux manifestations des médiathèques notamment, elles seront étoffées par des rendez-vous dans le cadre du Printemps des poètes. L'ensemble représente un budget de 71 000 euros. Dans le même temps, pour assurer la saison du théâtre Gabriel Dorzia, le Stade Alain Lazard disposera d'une subvention municipale de 590 000 euros. En matière de patrimoine, l'année 2018 verra une évolution marquante du projet Pays d'art et d'histoire. Depuis le temps qu'on en parle, on va peut-être voir le bout de ce projet, n'est-ce pas, Christian ? L'État ayant enfin validé le fait que notre collectivité serait la structure porteuse du PH, et pour la ville, ce projet représente un budget de quelque 49 000 euros, intégrant notamment la mise à disposition d'un de ses agents. S'agissant toujours du patrimoine local, qui est un bien commun de tous les Sparnassiens, le mois de mars prochain marquera la fin de la restauration de la salle des mariages de l'hôtel de ville. C'est la raison pour laquelle le public est dans l'entrée et pas dans la salle des mariages. Il y a des travaux qui sont engagés depuis 2 mois maintenant, et pour avoir eu un petit aperçu cette semaine de la qualité des réfections des peintures, ce sera, je pense, une très, très belle restauration qui justifie notre investissement au titre du patrimoine local. Tout comme nous ferons également un investissement important avec la communauté d'agglomération sur le patrimoine naturel de la ville à travers l'aménagement du Mont Bernon, qui est un projet donc porté par l'intercommunalité et qui sera livré aux Sparnassiens au printemps dernier. Cette intervention permettra de leur restituer un site qui a été trop longtemps laissé à l'abandon et qui constitue un point de vue exceptionnel pour découvrir nos fameux paysages de la Champagne. En matière d'animation, la ville va investir dans de nouveaux matériels pour les manifestations portées par la collectivité ou le milieu associatif. Ainsi, le Palais des Fêtes sera doté d'un nouveau grill mobile d'éclairage, je précise, ce n'est pas un grill pour faire des barbecues. Ainsi, le Palais des Fêtes sera doté d'un nouveau également système de sonorisation, et nous allons également acquérir un nouveau podium permettant d'éviter de coûteuses locations, notamment lors des événements comme voilà l'été, et qui assurera à notre collectivité un retour sur investissement en moins de 5 ans. Dans le domaine événementiel, plusieurs rendez-vous maintenant bien installés marqueront à nouveau l'année 2018. Parmi les principaux peuvent être rappelés le rallye Épernay Vin de Champagne, si apprécié de Jean-Paul Anger, la fête de la bière, voilà l'été, la Champagne en fête, en coordination avec l'agglomération, la soirée blanche du 14 juillet, les habits de lumière ou les féeries de Noël, pour lesquelles sera achevée notamment la sonorisation du centre-ville qui est attendue par les commerçants. D'autres manifestations auront lieu aussi cette année. J'ai déjà cité la fête des sports et la célébration du 65e anniversaire de notre jumelage avec Ettlingen. Il faut y ajouter un temps festif co-organisé et co-financé avec Pluriel Novilia à l'occasion de la fête de Bernon, qui marquera cette année la fin du réaménagement urbain du quartier de Bernon, ainsi que l'accueil du 25e anniversaire du festival Eno Vidéo, festival international de films et de photographie sur la vigne et sur le vin. Cet événement sera concomitant avec la Champagne en fête et nous réservera, j'en suis sûr, de très belles surprises. Un mot sur la fête de Bernon, effectivement. Nous espérons dans les prochaines semaines enfin démolir l'ancien centre commercial. Il se trouve que quelqu'un est encore locataire à l'étage et devrait très vite déménager, ce qui nous permettra d'apporter la touche finale à ce travail de recomposition urbaine, de renouvellement urbain, qui aura duré pratiquement 15 ans entre les temps d'études et les temps de réalisation. Je crois pouvoir dire, et je sais que vous partagez ce sentiment, puisque les projets de renouvellement urbain du quartier de Bernon ont, à ma connaissance, toujours été votés à l'unanimité dans ce conseil municipal et dans les conseils municipaux précédents, puisqu'évidemment, bien avant 2014, le conseil municipal avait été saisi de ce dossier. C'est une superbe opération urbaine qui a complètement changé l'image de ce quartier et la réalité de ce quartier pour ses habitants. Contribuant à la tranquillité publique des Sparnassiens au quotidien, les agents de la police municipale remplissent également un rôle important pour assurer la sécurité des différents rassemblements populaires, mais pas que. Et ces rassemblements populaires peuvent, comme pour les habits de lumière, drainer parfois jusqu'à 50 000 personnes dans notre ville. Et parmi les moyens leur permettant de remplir leur mission, ils disposent aujourd'hui d'un dispositif de vidéoprotection comportant 15 caméras fixes et 2 caméras nomades. Le budget 2018 permettra de remplacer 3 caméras fixes de première génération et par ailleurs seront déployées 4 caméras supplémentaires sur l'avenue de Champagne, considérées par l'État comme un des sites touristiques majeurs du département, justifiant la présence de la vidéoprotection. Toujours en matière de sécurité, je vous confirme que si le ministre de l'Intérieur a fait le choix de la construction d'un nouveau commissariat plutôt que celui d'une rénovation-extension de l'actuel bâtiment, la ville mettra gracieusement à disposition de l'État un terrain de 4 000 m² Prenant en compte les contraintes opérationnelles exprimées par les forces de police, ce terrain est localisé au débouché de la rue du Général Sylvester sur l'avenue du Général Marguerite. C'est un terrain qui fait pratiquement face au collège Terre Rouge et qui, d'après les forces locales de police, est parfaitement adapté à la construction d'un nouveau commissariat. C'est une décision évidemment que nous attendions depuis une douzaine d'années, puisque mes premières interventions datent de 2006. Et elle se justifiait amplement. Toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de visiter l'actuel commissariat ne peuvent que souscrire à la décision de l'État de le reconstruire. Ça me donne l'occasion de remercier une fois encore le député Éric Girardin, qui a efficacement relayé, depuis qu'il a été élu, toutes les démarches que nous avions anticipées préalablement et la rencontre que nous avons eue le 25 janvier dernier ou 20 janvier dernier nous laissait entrevoir une issue favorable dans les 3 à 6 mois qui venaient. Ce que nous ne savions pas, c'est que la décision serait prise 4 ou 5 jours plus tard, ce qui, évidemment, nous a comblés. Enfin, au titre des moyens affectés aux services municipaux, il faut citer l'acquisition de nouveaux matériels qui sera faite cette année. Ainsi, par exemple, nous disposerons au niveau du service propreté d'une nouvelle balayeuse pour un montant de 250 000 euros, ainsi que 2 tracteurs au service espace vert. Comme vous le voyez, mes chers collègues, le budget 2018 comporte de nombreux projets et de nombreuses actions. Il permet en particulier un haut niveau d'investissement qui va contribuer au développement des Pernets et à la qualité de vie de nos habitants, qui constitue notre priorité. Ce budget est la traduction du travail et de la volonté politique de notre équipe municipale. Je veux profiter de mon intervention pour remédier très chaleureusement chacun de ses membres pour son application personnelle au service des Sparnassiens. Remercier également le service finance, contrôle de gestion, le travail de Christine Mazzi, qui nous a permis de boucler ce budget, ce qui n'est jamais un exercice facile, parce qu'évidemment, on a toujours beaucoup plus de projets que de financements et qu'on voudrait toujours en faire davantage. En tout cas, je crois que chacun a apporté sa pierre à l'édifice et a fait les efforts nécessaires pour que nous puissions présenter un projet ambitieux. Avant de débattre et d'écouter vos propositions, je vais maintenant céder la parole à Christine Mazzi, qui, sous la forme d'un exposé synthétique, va vous présenter les principaux indicateurs financiers du budget primitif 2018. Vous êtes habitué à cet exercice et j'en suis sûr que vous allez l'écouter avec beaucoup d'attention. Oui. Oui. Au musée. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on ne connaît pas exactement avec précision le montant de l'excédent 2017, mais on aura un excédent 2017 et les financements qui sont prévus pour le musée dans le budget seront complétés par 1,2 million supplémentaires qui sont en fait des résultats de l'excédent 2017. Je laisse donc la parole à Christine.
Merci, monsieur le maire. Et donc, fidèle à votre demande, je vais faire synthétique. Alors, donc cette première diapo pour vous rappeler que hors le budget principal de la ville, donc il y a un certain nombre de budgets annexes que l'on voit là, donc le budget parking, le chauffage urbain, le camping et puis les 2 budgets annexes des cellules commerciales qui sont les cellules commerciales Saint-Thibault et du quartier de Bernon. Donc le budget principal de la ville est de 65,3 millions. Tout budget confondu, donc nous sommes à 67,9 millions contre 61,8 millions l'an passé, au budget précédent. Donc cette variation de 6 millions est liée à une augmentation d'une part de la section d'investissement qui est rendue possible, comme ça vous l'a été dit tout à l'heure, par la progression de l'encours de notre dette de 2 millions, mais également par un certain nombre de recettes d'investissement qui seront en augmentation. On le reverra un peu plus tardivement. Donc, en ce qui concerne ce budget principal, donc il est de 65 millions d'euros, si j'arrondis, contre 59 millions l'an dernier. La section de fonctionnement, elle, est de 44 millions d'euros, soit une augmentation de 1,4 par rapport à l'an dernier. Et la section d'investissement, elle, est en augmentation de 5,5% par rapport au budget précédent. Donc, en ce qui concerne ce graphique, donc le total de notre budget de fonctionnement, comme on le voit, est de 44,8 millions d'euros, pour arrondir. Il est en hausse par rapport au BP 2017. Les recettes d'ordre s'élèvent à 1,8 million. Elles augmentent de 103 000 euros par rapport à l'inscription, de par l'inscription d'une enveloppe de travaux en régie qui est plus importante que l'an passé. En ce qui concerne les recettes réelles, elles sont de presque 45 millions d'euros. Elles progressent de 500 000 euros. Cette variation s'explique par la petite bande violette que vous voyez tout en haut à droite, qui est en fait l'inscription d'une enveloppe de 800 000 euros en opération exceptionnelle. Ces 800 000 euros sont relatifs au mécénat, comme ça a été vu tout à l'heure, donc le mécénat notamment pour le musée d'archéologie. Donc cette recette augmente l'autofinancement de la ville, hein, ce qui permet une hausse des recettes d'investissement. Si nous n'avions pas cette recette exceptionnelle, en fait, les recettes réelles de la ville baisseraient de 0,7% par rapport au BP 2017. Donc, en ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement hors produits exceptionnels, donc pour pouvoir comparer budget à budget, nous avons soustrait les 800 000 euros des recettes exceptionnelles. Donc, elles sont en baisse, donc, comme je viens de vous le dire, de 0,7% et s'élèvent à 42,2 millions d'euros. Donc, cette évolution s'explique par un certain nombre de diminutions, notamment la baisse de la DGF de 192 000 euros, la baisse également de la taxe de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, donc je n'arrive jamais à dire l'acronyme dans l'ordre. Donc cette enveloppe maintenant est prise en compte dans l'enveloppe normée, ce qui fait que cette dotation a diminué de 294 000 euros. On a parallèlement des augmentations, donc 200 000 euros en plus de droits de mutation. Hein. Le budget prévisionnel de 2018 est basé sur le réalisé de 2017. On a 165 000 euros en plus qui concernent, donc dans les frais de gestion, qui concernent une nouveauté qui est la mise en place du forfait de post-stationnement. 76 500 euros également en plus qui concernent la location du plateau de Mairie 2 qui accueille la pépinière d'entreprise Pepsi Champagne. Et puis, on a une baisse de 75 000 euros qui concerne la fin du dispositif des emplois d'avenir. Donc voilà ce qui explique cette baisse. On a quelques hausses et quelques baisses, mais globalement une baisse de 0,7% par rapport au budget de l'an passé. Donc les histogrammes qui vous sont présentés montrent l'évolution du produit fiscal de la ville depuis 2012. Donc un petit focus sur le budget prévisionnel 2017 sur lesquels donc le petit carré bleu que vous voyez c'est la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Le bâton juste à gauche, vous voyez, qui correspond à simplement 2017. En fait, c'est, on va dire, le réalisé 2017, dans lequel ne figure pas ce petit carré bleu, puisque, comme vous le savez, avec la fusion en agglo, la cotisation foncière des entreprises est perçue maintenant directement par le PCI. Donc, la ville n'est plus destinataire de cette taxe. Par contre, on verra que l'agglo nous le reverse par le biais d'attribution de compensation. Donc, ça nous a paru important de remettre 2017 et puis avec le budget prévisionnel 2018, puisque budget prévisionnel 2018, bien évidemment, nous ne prenons pas en compte le versement de cette CFE. J'attendais que ça passe. Donc, le graphique suivant illustre en fait l'effort qui est demandé par l'État aux collectivités au travers du redressement des comptes publics et puis les conséquences sur la ville d'Épernay qui vient s'ajouter au gel de l'enveloppe normée, hein, qui se traduit, comme je vous l'ai dit précédemment, par une baisse de la DGF. Hein. Donc, on le voit ici, hein, la DGF est représentée par le rectangle en vert. Donc, la partie bleue, en fait, c'est une partie de la DGF qui ne nous sera plus versée directement, mais qui sera versée à l'EPCI du fait du transfert d'un certain nombre de compétences, et donc qui nous sera reversée par le biais d'attribution de compensation. Donc, en ce qui concerne la DSU et puis la dotation de solidarité urbaine et puis la compensation fiscale en vert, donc il n'y a pas de modification. Par contre, en ce qui concerne donc la DCRTP, on voit une baisse de 300 000 euros, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, puisque maintenant, cette compensation intègre l'enveloppe normée. Donc, quelque chose qui, normalement, nous avait été dit figé depuis un certain temps, cette année, ça n'est plus figé, mais on constate une baisse, hein, puisqu'on passe d'1,9 million à 1,6 million. Donc, régulièrement, on voit cette diminution des dotations de l'État. Donc, en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, donc, on reprend les principaux postes de dépenses en fonctionnement. Donc, à gauche, le budget prévisionnel 2017 et puis à droite, le budget prévisionnel 2018. Donc, une petite remarque concernant le rectangle bleu qui concerne les charges de personnel, les dépenses de personnel. Donc, nous y avons intégré également les charges de personnel des services communs. Hein, ce qui n'avait pas été, on a réactualisé, si vous voulez, les chiffres du budget prévisionnel 2017. Donc, on voit que le FPIC a augmenté, hein, donc par rapport au budget de l'an passé. Donc, c'est une augmentation qui est moindre que si nous n'avions pas fusionné en agglo. Voilà, sinon, en ce qui concerne les autres dépenses, il n'y a pas de remarques particulières à faire quant à l'évolution des chiffres. Donc là, cette fois, on reprend les mêmes valeurs, mais qui sont présentées sous forme d'évolution depuis 2009. Donc, en haut, la ligne bleue qui correspond aux charges de personnel. En ce qui concerne les charges financières qui se trouvent tout en bas, hein, donc les intérêts d'emprunt, là, on remarque, hein, si on compare aussi avec les petits pointillés verts qui correspondent au FPIC, que depuis 2015, le montant du FPIC dépasse le montant de nos charges financières. Donc, en ce qui concerne les effectifs budgétaires des villes et de ses annexes, hein, donc on a les cônes qui représentent, donc, en fonction des catégories, catégorie C, catégorie B et catégorie A, les différents effectifs. Et puis ensuite, sur le camembert, la répartition des effectifs par filière, donc avec un gros pourcentage, puisque plus de 50% qui sont dédiés à la filière technique. Ensuite, la filière administrative et puis les autres filières telles que déclinées. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en vert, c'est la filière animation, la filière culturelle en violet, la police en bleu, la filière sociale en orange et puis la filière sportive en bleu plus pâle. Voilà.
Non ? Je précise que dans le camembert qu'on a vu juste avant, oui, la part de la filière sociale paraît réduite, mais il n'y a pas tout le personnel du CCAS. Hein.
Oui, c'est ça. C'est budget. Uniquement la ville. Oui,
donc,
pardon.
Si on voulait avoir une vision plus globale et plus complète, une vision consolidée du personnel municipal, il faudrait y ajouter tous les personnels du CCAS qui n'apparaissent pas sur le budget, qui apparaissent quelque part à travers la subvention qu'on donne en partie au CCAS, mais ça représenterait un personnel social beaucoup plus important que ce qu'on a là.
Donc, en ce qui concerne les budgets annexes, donc toujours comparatif entre budget 2017 et budget 2018, donc pas grand-chose à dire concernant l'évolution des budgets des parkings, du camping. Simplement une remarque concernant le budget chauffage urbain, puisque là, on voit un budget prévisionnel à la baisse, puisqu'on a tenu compte dans ces prévisions d'une baisse de la consommation ainsi qu'une baisse des tarifs. Donc les autres budgets restent stables pour les autres annexes. En ce qui concerne les dettes de la ville, donc ce que l'on peut dire, c'est qu'au 1er janvier, la dette de la ville et de ses annexes est de un peu plus de 33 millions d'euros hors report de l'an passé. Donc l'encours de dette est à 91% sur le budget principal et 9% sur le budget parking, comme vous pouvez le voir. Rappelons que nous avons une dette qui est sécurisée selon le classement Gisler et que tous nos emprunts sont classés, comme on le voit sur le graphique du bas, 1A ou 1B. 1A à 95%, 1B à 5%. Donc nos emprunts actuellement en ce qui concerne le choix des taux donc sont à 65% sur du taux fixe et à 35% sur du taux variable. Donc l'évolution de la dette de la ville depuis 2002. Donc on voit là, puisque le choix qui a été fait d'augmenter notre encours de dette, donc ça se répercute sur ce graphique. Pour autant, on voit que, compte tenu des taux d'intérêt extrêmement intéressants, la charge de la dette diminue. Donc, nos dépenses d'équipement. Alors, dépenses d'équipement hors valorisation des travaux en régie sont de 15,34 millions d'euros, comme figure sur le graphique, contre 9,92 en 2017. Donc, cette augmentation de 5,4 millions d'euros est permise par l'augmentation de notre encours de dette de 2 millions, d'une part, par la réinscription du fonds de compensation de TVA 2017 et l'augmentation du fonds de compensation TVA 2018, puisqu'évidemment, le montant du fonds de compensation TVA est lié à nos investissements et à une partie de nos dépenses de fonctionnement. L'inscription également de 824 000 euros de la cession de certains bâtiments. Monsieur le maire vous en a parlé tout à l'heure, notamment d'un bâtiment situé avenue Foch à destination des Papillons Blancs. Une hausse de notre autofinancement de 800 000 euros compte tenu du mécénat. Et puis, un montant de subvention également qui est lié à un certain nombre de projets développement durable et notamment aussi à la vente de certificats d'économie d'énergie, les fameux CE. Donc, comme vous l'avez été expliqué tout à l'heure, donc en ce qui concerne nos dépenses d'équipement, elles sont financées, comme on le voit sur le graphique de droite, à 34% par nos ressources propres, hein, qui se trouvent en bas du graphique, à 30% par des participations sur projet et à 36% par des emprunts nouveaux. Et j'en ai terminé.
Merci Christine. Vous avez donc une vision panoramique du budget. Je vous laisse maintenant vous exprimer de façon à ce que nous puissions ouvrir le débat. Qui demande la parole ? Marc, allez-y, vous aurez tous.
Merci, monsieur le maire. Donc, mon propos consiste en une analyse critique du budget, mais pose également de nombreuses questions sur votre gestion récente et à venir de notre ville. De plus, je me permettrai de faire quelques propositions. Je sais, comme d'habitude, vous répondrez globalement à l'opposition. Ainsi, vous omettrez volontairement ou involontairement de prendre en compte certaines interrogations. Donc, le premier constat, donc des recettes en nette augmentation, l'a vu, donc un budget normalement plus facile à élaborer. Épernay a la chance de bénéficier d'un potentiel fiscal et financier élevé, de 31% supérieur à la moyenne nationale. Vous n'avez pas trop ces comparaisons de la page 4, mais je me limiterai à quelques-unes. Le produit des impôts directs est de 15,4% plus élevé que dans les autres villes. Ces recettes sont en augmentation de 626 800 euros par rapport au budget 2017 et se montent à 44 780 700, comme on l'a vu. Signe de l'amélioration économique, vous prévoyez d'augmenter les taxes additionnelles droit de mutation de 200 000 euros, soit 36% par rapport à l'an dernier. En revanche, les droits de place, compte 73-36, sont en diminution de 31,5%. On me dit que nos services ont pris cette initiative en pensant à la diminution du nombre de forains du fait de l'installation du ballon captif. Je m'interroge donc sur les gens et comment est monté ce budget, est élaboré ce budget. Quelques questions sur ces recettes. Comment se fait-il que le produit de la taxe de séjour ne soit pas en augmentation alors que votre politique est axée sur le tourisme avec la nouveauté attrayante surtout du ballon captif? Deuxième question. Comment se fait-il que le compte 7351, taxe sur la consommation finale d'électricité, soit en diminution alors que vous allez certainement augmenter cette taxe comme vous l'avez fait tous les ans depuis ces dernières années? Enfin, je note au compte 77, produit exceptionnel pour 815 000 euros. Donc cela correspond, vous l'avez dit, au mécénat. Comment pouvez-vous inscrire une telle somme alors qu'actuellement on a un engagement, je crois, un peu plus de 300 000 euros? Donc d'habitude, je vous croyais plus prudent pour l'inscription des recettes à venir. Donc vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez plusieurs contrats ou plusieurs engagements que nous allons connaître dans quelques instants ou dans quelques semaines.
Dans quelques semaines.
Quelques semaines.
Je n'ai pas dit dans quelques instants.
Voilà. Deuxième constat, des dépenses variables, souvent restrictives, soit restrictives, soit exagérées. Le personnel, l'effectif pourvu est de 430 emplois. Après 26 transferts de postes à la communauté d'agglo, vous comptez poursuivre par la suppression de 10 postes en 2018. De plus, vous ne compenserez pas la suppression des emplois aidés. Qui effectuera leurs tâches, leur travail? Concernant l'investissement, naturellement, l'opposition a voté pour la réhabilitation du musée. À ce propos, je me suis aperçu récemment du changement de nom du musée. Ce n'est plus le musée régional d'archéologie et de vin de Champagne, mais le musée de vin de Champagne et d'archéologie régionale.
Vous êtes observateur.
Il y a un moment, oui, mais ça ne figure qu'en 2017. En 2016, ça ne figurait pas encore. Bon, alors vous m'expliquerez pourquoi ces termes ont-ils été inversés. Il y a certainement une raison. Et puis je note, comme tous les ans, une insuffisance pour les crédits de voirie. Concernant les subventions que nous voterons après, mais Épernay a une dynamique, un dynamisme grâce à toutes ces associations et à tous ces bénévoles. Il faut à tout prix conserver ce tissu associatif, facteur de lien social, indispensable pour le bien vivre ensemble. Malheureusement, vous diminuez ces subventions après avoir, après deux années répétées, que vous ne pouviez faire autrement à cause de la diminution des dotations de l'État. Je crois que cela est grave de votre part. Vous allez me dire que ces subventions ne diminuent que de 9 500 euros, mais cette diminution est globale, elle cache bien des disparités et montre vos choix politiques. Tout d'abord, vous augmentez le coût de l'utilisation des équipements pour les associations qui se montent à 1 086 000 euros. Deuxièmement, 23 associations voient leurs subventions diminuer. Seulement 5 se voient attribuer des subventions en nette hausse. Avec 257 582 euros, l'enseignement privé voit sa subvention augmenter de 18 682 euros, soit 13%, alors qu'elle avait déjà été augmentée l'an dernier d'une quinzaine de pourcents. Ça fait qu'elle a été augmentée en deux ans de 35 307 euros, soit 15,8%. Et puis, dans les augmentations aussi considérables, le commerce de 10 420. Donc, voilà, il y a peu d'augmentations, mais elles sont ciblées. Et puis, c'est anecdotique, mais on subventionne deux associations de scouts pour 800 euros, hein, 400 euros chacune. Bon nombre d'associations n'ont que 150 ou 200 euros sur la multiplicité de nos associations sparnassiennes. Les associations avec des subventions en baisse notoire, tous les syndicats, la culture, le social. Trop de dépenses en divers, comme chaque année, je le répète, plus d'un million. Le compte 62-28 pour 787 500, le compte 62-38 pour 79 000 et le compte 62-88 pour 170 400. Vous allez me répéter que c'est pour une certaine souplesse de gestion, etc. Mais ce sont quand même des sommes énormes puisque ça constitue plus d'un million. Alors, on trouve aussi des dépenses exagérées et toujours en augmentation avec les fêtes et cérémonies à 550 000 euros. en augmentation de 6,7%. Le compte réception à 77 410 euros, en augmentation de 24,75%. La fête, c'est important, mais attention, n'accentuez pas certaines dépenses. Question donc sur une petite somme. Le compte 627, pourquoi cette année le compte service bancaire et assimilé est-il aussi élevé par rapport aux autres années? Donc j'ai posé un maximum de questions en commission. On m'a répondu, je crois, sauf à une. Mais donc, voilà, je ne pose pas toutes les questions en conseil. En ce qui concerne la dette, notre encours de dette est supérieur à 16% à celui des villes de la même strate d'habitants. Avec 37 millions, tout budget confondu, notre endettement se détériore à nouveau. Elle est loin votre promesse de décembre 2012, lors du débat d'orientation budgétaire, de revenir en quelques années dans les normes de la moyenne des villes de la même strate. Ça, c'est sur le CD, c'est bien gravé, hein. Concernant certains emprunts avec des taux supérieurs à 4%, n'y a-t-il pas la possibilité de renégocier ces emprunts, notamment avec la Caisse d'épargne? On a des emprunts à 4,46, 4,1, 4,55. Concernant des critiques, les suggestions et interrogations sur les grands projets de la ville, tout d'abord, 5 questions. Vous avez peut-être déjà répondu, mais je n'ai peut-être pas percuté, donc je me permets de les reposer. Concernant la vente du palais de justice, donc nous avons eu une rentrée financière et puis l'indemnité à Plurial Novilia pour la résiliation des locations de la location. Donc je n'ai jamais eu le bénéfice net, la rentrée nette sur cela. Je pense que vous l'avez maintenant. Deuxième question concernant le terrain correspondant à l'ancienne piscine de Bernon. Vous aviez promis de lancer une enquête pour l'aménagement du terrain. Certains habitants et associations attendent avec impatience cette concertation. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées. Il faudra peut-être faire le tri, mais il faudrait mener cette enquête comme vous l'aviez promis. Troisième question. Dernièrement, un élu de l'agglo de premier plan me demandait où en était l'étude sur l'éventuelle réhabilitation du palais des fêtes. Donc, savoir si ça a avancé, quand aurons-nous le résultat? Quatrième question. Donc, vous avez parlé du terrain de 4000 m². Je voulais savoir si c'était le terrain qui était face au Milésium et qui devait être destiné à l'implantation d'un hôtel.
Non.
Non, ce n'est pas celui-là. Non. Donc, il y aura toujours
non,
un hôtel.
Non, c'est le terrain qui est entre la Girondière, la résidence personnes âgées, le Milésium et le Collège Terre Rouge.
D'accord. Cinquième dernière question. Quelle est la destination de l'ancienne maison des associations? Quelle est la valeur du terrain? Puisque maintenant, je pense que, avec le départ des Restos du Cœur, cette ancienne maison doit être libre. Le budget, c'est l'heure des choix, mais aussi des dossiers engageant l'avenir de notre cité. Je vous demande donc quelques explications et aussi vous fais quelques suggestions. Concernant l'environnement, le projet Noémie a été définitivement abandonné, je crois, mais on n'a jamais été bien au courant. Il fait partie de l'agenda 21. Ça a peut-être été dit, mais je ne l'ai pas bien percuté. Je n'ai pas percuté. Les pistes cyclables sont insuffisantes. Ça revient assez souvent. Vous devriez prendre l'engagement d'en réaliser à chaque réhabilitation de rue. Autre suggestion, je l'ai déjà faite, je la refais ce soir. La municipalité devra acquérir les bains-douches et les réhabiliter. On avait vu qu'il y avait un projet de, je ne sais plus, d'hôtel, mais enfin, ça devait être en 2014 ou 2015. Rien ne se fait. Vous allez me dire que c'est privé, mais donc ce serait pour essayer d'en faire l'acquisition. La semaine du développement durable, monsieur l'adjoint à l'environnement, devrait être l'occasion de mobiliser les élus et les habitants pour le nettoiement, comme ça se faisait antérieurement dans le mandat précédent. Concernant la fête patronale, vous avez rencontré, je crois, si mes informations sont bonnes, les représentants des forains le 29 novembre dernier. Avant ce rendez-vous, quelques jours auparavant, des forains me confiaient que vous alliez soit leur proposer des navettes pour convoyer les personnes pour donc faire la fête au niveau du parking du Millésium, soit les installer sur les terrains SNCF. Donc c'est peut-être pas sérieux, mais c'est ce qu'ils m'ont dit à cette époque. Que prévoyez-vous en 2018 et 2019 à propos de la fête ? Concernant l'économie, l'opposition de gauche déplore toujours la désindustrialisation et le fait que vous ne jouiez que la carte essentiellement du tourisme. Quand cette compétence sera-t-elle attribuée à l'agglo ? Concernant le projet Territoire innovant, quand pourra-t-on en savoir davantage sur les projets sparnassiens et qui travaille sur ces dossiers ? On sait déjà que Reims travaille sur la ferme 112 et puis on sait que Chalon travaille sur Planète A. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un projet sur le vin. Est-ce que ce projet sera compris dans InnoBioEco ? Concernant le dossier important des berges de Marne, le chantier de démolition et de dépollution devait se terminer fin janvier. L'acquisition des terrains devrait s'effectuer en 2018. Les crédits sont-ils budgétés et de quel montant ? Le mandat d'étude phase 2 de l'aménagement du quartier des berges de Marne a été attribué à la SEM Agencia pour la somme de 88 104. Nous avons vu le deuxième avenant récemment en commission. Pourrait-on connaître, j'ai demandé en commission, le libellé exact de la lettre de commande et quand la SEM Agencia doit-elle rendre son étude ? Concernant un problème récurrent, la démographie. Selon vos documents budgétaires de la page 4, la perte serait de 509 habitants. Nous avons pu lire dans la presse que nous serions arrivés à une certaine stabilité, moins 7 habitants, et ça, c'est un motif de satisfaction si cela se vérifie. Cependant, je vous invite à vous pencher sur la pyramide des âges, Épernay vieillit. Ne faites pas d'Épernay uniquement une ville de retraités aisés du vignoble. Ce n'est pas un bon calcul. Nous avons besoin de garder une jeunesse attachée à notre ville et d'y voir l'installation de jeunes couples. Je vous invite une nouvelle fois à agir en conséquence. Je terminerai mon propos sur un thème qui me tient à cœur et dont vous ne prenez pas assez conscience, à savoir l'énorme fracture sociale à Épernay. Vous allez me rétorquer qu'avec le panier solidaire, inauguré la semaine dernière, Épernay fait déjà beaucoup. Certes, cela est bien, mais insuffisant. Selon moi, nous devons faire mieux. Je le redis, les taux de chômage, environ 14%, de pauvreté, près de 19%, sont très élevés dans notre ville, au-dessus de la moyenne marnaise, qui est de 13,6%, et de la moyenne régionale, de 15%. Cette précarité est croissante. Ces chiffres datent de 2015. Deux comptes du budget illustrent bien cette analyse. Le compte 65-41, créances en non-valeur, qui augmente considérablement et donc je crois de 100%, et le compte 75-42, créances éteintes, qui n'était pas abondé et qui passe à 15 000 euros. Les besoins sont considérables à Épernay. L'épicerie sociale accueille 1570 familles, dont plus de 1300 d'Épernay. Les Restos du Cœur servent 4578 repas équivalents par semaine, représentant environ 800 personnes. Les nouveaux locaux des Restos du Cœur sont trop étroits. Ils ne peuvent développer leur projet de vestiaire et d'aide psychologique. Oui, c'est parce qu'ils ne l'ont pas dit le jour de l'inauguration. C'eût été malvenu.
Je n'ai entendu que des messages positifs, à la fois du président départemental,
le jour
et du président
de l'inauguration,
local,
on est positif.
Se félicitant mais des progrès entre les anciens locaux et les nouveaux.
J'y suis allé auparavant et cela résultait de propos que j'ai pu échanger. Les besoins sont considérables à Épernay. L'épicerie sociale, donc, accueille, bon, je l'ai déjà dit. Donc, cette année, la subvention du CCAS n'augmente pas. Le repas des seniors est chaque année une grande réussite. Combien coûte ce repas animation comprise ? En ce qui concerne les seniors, suite à une question en commission, nous avons appris que les tarifs de la future maison des seniors seront en augmentation de 20% en ce qui concerne les résidents du foyer André Chenier. Vous dites souvent que les besoins sociaux sont satisfaits à Épernay. Or, trop de personnes sont isolées. Je n'ai pas vu la municipalité réagir. Peut-être qu'elle l'a fait, mais je ne le sais pas. Face aux articles parus dans la presse locale sur cet octogénaire qui ne pouvait ni régler les frais des obsèques de sa fille, ni faire réparer ses toilettes. J'invite la municipalité à être plus fraternelle et à soutenir davantage les plus fragiles. Monsieur le maire, je vous propose de créer des assises de la solidarité où les professionnels et les bénévoles issus d'associations et d'institutions œuvrant dans le champ social pourraient mieux se connaître, dialoguer et agir de concert. Donc, en conclusion de cela, Épernay est une ville riche. Elle ne doit pas laisser une partie de ses habitants au bord de la route. Je vous invite donc à réduire cette fracture. Je dirais que ce budget ne répond pas assez aux problèmes et aux préoccupations des Épernaciens, qu'il est tantôt dispendieux dans certains domaines, tantôt très insuffisant, voire restrictif. Les augmentations de recettes devraient en priorité aller à l'investissement et à la solidarité. Le tourisme, le ballon captif, c'est bien, mais vous devez penser à tous les Sparnassiens. Pour terminer, je vais m'inspirer de ce qu'a dit la semaine dernière Madame la sous-préfète lors de l'inauguration du panier solidaire. À Épernay, il n'y a pas que des gens qui vivent de l'avenue de Champagne. Merci de votre attention.
Merci. Je donne tout de suite la parole sur un point très précis à Annie Loyau.
En ce qui concerne la personne dont vous parlez, sachez que ces propos ne reflètent pas la vérité. Nous l'avons aidé pour les obsèques et nous l'avions aidé par le passé pour d'autres factures. Cette dame avait 1 700 euros de ressources à l'époque où elle avait encore sa fille handicapée, 1 600 et quelques. Et nous avons dû, à cette époque-là, l'aider parce que ses dépenses étaient inconsidérées parfois. Donc, elle a dit à la presse ce qu'elle voulait. Moi, je sais que nous l'avons aidée à plusieurs reprises, mais dans la discrétion la plus totale, bien sûr.
Comme nous le faisons tout au long de l'année auprès d'un certain nombre de personnes en difficulté, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas étalage parce qu'on considère que la dignité humaine impose que un certain nombre de soutiens apportés par la collectivité restent confidentiels parce qu'on considère que c'est notre manière.
Par ailleurs, cette personne est propriétaire de son appartement. Et je peux vous dire que sur le territoire, nous aidons des personnes qui ne sont que locataires et qui, elles, ont des difficultés plus importantes, mais qui n'alertent pas la presse.
D'autres interventions, Monsieur Richard.
Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, pas de surprise en ce qui nous concerne, c'est-à-dire les élus Épernay Avenir, Jean-Paul Anger, Hélène Perrin et moi-même, nous voterons contre le budget qui nous est proposé. Pour plusieurs raisons, je ne rentrerai pas dans le détail, même si je ferai quelques observations sur quelques postes, sur quelques lignes. Mon propos y sera plus général. Et pour ce faire, je reprendrai notre chronique du mois de janvier, paru dans le magazine municipal, hein. D'ailleurs avec une présentation très bonne, enfin, en progrès, si je vais le formuler comme ça, hein. Qui traite de la préparation du budget et des objectifs qu'il devrait se fixer, selon nous, en matière de solidarité, notamment par les services rendus aux administrés, en particulier vers les populations les plus fragiles, les plus exposées dans cette période. Marc l'a abordé un petit peu. Parce que on se félicite, vous vous félicitez régulièrement, je ne dirais pas que tout va bien, mais c'est quand même assez souvent la tonalité. Or, nous pénalisons. Il y a quand même 20% de la population qui est dans la pauvreté ou à la limite du seuil de la pauvreté. Et c'est un réel problème. La fiscalité locale, quoi que vous en disiez, est inégalitaire et frappe durement les plus modestes d'entre nous. À cet égard, un exemple frappant, même si on l'oublie assez souvent, si vous l'oubliez assez souvent, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec les conséquences que cela a entraînées pour des centaines et des centaines, puisque je crois qu'on parlait de 1700 ou 1800 foyers sur l'ensemble de la communauté de communes à l'époque, qui étaient touchés par cette nouvelle taxe, entre guillemets, par l'application de cette disposition qui existait auparavant, mais qui ne vivait pas. Et sans cette taxe, sans diminution des taux, contrairement à ce que j'ai pu lire dans un article d'un hebdomadaire et un article où vous êtes, là on dit 2700 foyers supplémentaires pourraient payer, etc. Dans cet article, vous dites qu'il y aurait, bon certes ça passerait à 8-10, mais ça se traduirait par une baisse de 24% des autres taux. Or, à ma connaissance, et en vérifiant ne serait-ce que ma feuille, mes feuilles d'imposition, je n'ai pas vu de modification des taux, ou si ce n'est peanuts de 0,20, 0,30, voire une fois 0,50. Donc, là, il y a eu un... il y a quand même, non seulement il y a de nouvelles catégories, enfin, de nouvelles franges de la population qui a été frappée, et les autres n'ont pas vu pour autant diminuer leur taxe. Et à cet égard, je ferai une proposition un peu plus loin. Je prends un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai été sollicité par une personne qui habite dans le centre d'Épernay, qui a 1082 euros par mois pour vivre. Et je ne veux pas faire pleurer, je ne suis pas sur le misérabilisme. Je prends un exemple parce que je l'ai découvert, elle m'appelait pour une facture d'eau, et en même temps, donc, j'ai demandé un certain nombre de documents, elle m'a donné ces documents. Sa propriétaire, évidemment, répercute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 1080 euros par mois, 720 euros de loyer et charges, et hop, boum, 138 euros supplémentaires qui viennent s'ajouter à ces dépenses. Alors, il est évident que c'est de plein pot. Et même si vous dites, ah oui, il appartient au propriétaire éventuellement de ne pas répercuter cette taxe, bah, écoutez, je ne pense pas que Pluriel Novilia, comme les autres propriétaires, se soit distingué dans ce domaine en ne répercutant pas les taxes, cette nouvelle taxe. Donc, c'est quand même la population la plus fragile qui paie. Alors, vous dites que ça n'augmente pas la fiscalité. Alors, peut-être que les taux, on ne les bouge pas. Mais la fiscalité en termes de volume a des rendements supérieurs à ce qu'on connaissait il y a 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, on l'a vu encore tout à l'heure dans le fromage, enfin dans les différents fromages, et c'est dans le document du budget. Or, je trouve qu'il est quand même... je trouve qu'il est fort de café de dire qu'on a la stabilité de la fiscalité, alors qu'elle augmente régulièrement, et notamment ça se traduit à population à peu près équivalente à des sommes, à des rentrées, à des volumes beaucoup plus importants. Donc, sur cette partie-là, ce sont les familles qui, pour l'essentiel, fournissent, je dirais, l'augmentation du volume des recettes, c'est impôts et taxes, ainsi que c'est libellé dans le document. Pour notre part, nous sommes favorables à un examen du taux concernant la taxe d'habitation, afin d'aller vers un allègement de celle-ci. Même si nous n'ignorons pas qu'il y a un lien entre ce qu'on appelait dans le temps les quatre vieilles, enfin, je dis dans le temps, excusez-moi, mais ce qu'on appelle enfin, les quatre taxes, et on ne peut pas nécessairement... Il y a un effet mécanique, quand on en bouge une, effectivement, ça peut avoir un effet sur l'autre, etc. Et que ça peut avoir également un effet sur les dotations. Enfin, plus globalement, sur la méthode de préparation du budget, nous sommes plus pour une démarche qui se situe à l'inverse, bien évidemment, à l'opposé de la vôtre. Notre vision s'inscrit dans une démarche citoyenne, Elle se veut ouverte sur la ville, ses quartiers, ses associations, et non plus entre quelques-uns. Votre initiative de projet participatif que nous avons approuvé, et à cet égard, ne répond pas à cette vision, à notre volonté, à notre souhait que les grandes orientations qui impactent la ville, ses habitants, son avenir, soient débattues le plus largement possible. À l'inverse de votre démarche, qui impose, qui met devant le fait accompli, comme d'ailleurs, j'irais grosso modo, en ce qui concerne l'installation d'un ballon captif. Perçu par un bon nombre de nos concitoyens comme le gadget du maire, hein, sans vous soucier de ce que pense la population au-delà du cercle de la place de la République et de la nuit de Champagne. Cette pratique et conception de la démocratie, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas nôtre. Et en ce qui nous concerne, nous aurions consulté largement, même s'il appartient aux élus, toujours, il ne s'agit pas de déposséder les élus de leurs responsabilités, de leurs prérogatives, même s'il appartient aux élus, in fine, au final, de prendre des décisions. En conclusion de ce propos liminaire, notre position touche tant à la forme qu'au fond de votre politique, dont peut-être s'est inspiré le président Macron, qui prend aux pauvres pour satisfaire les riches. 2-3 points, et ça sera assez bref. Je préciserai, vous l'avez juste évoqué, qu'effectivement, sur le vote des subventions, on votera contre en ce qui concerne la subvention au véhicule automobile, au rallye. Voilà, je cherchais le terme. Et j'avais quelques questions, mais elles ont été évoquées pour l'essentiel par Marc, alors je ne vais pas aller plus loin. J'avais une interrogation, vraiment, c'est de l'information, là. Il n'y a pas de jugement. Dans l'autre charge de gestion courante, le poste autre contribution, 65548, qu'est-ce qu'il recouvre ? Et je n'ai pas mémoire, vous m'excuserez, vous voudrez bien m'excuser, je n'ai pas mémoire, peut-être que déjà on avait posé la question par ailleurs. Pour un certain nombre des éléments que j'avais notés, ils ont été évoqués par Marc et je ne vais pas alourdir en répétant.
Merci. D'autres interventions ? Madame Demange, Monsieur Durand.
Monsieur le maire, chers collègues, aujourd'hui vous nous proposez un nouveau budget primitif quasiment identique à celui de l'an passé. Je suis donc amenée à formuler les mêmes inquiétudes. Rien n'est prévu pour redynamiser Épernay. Au contraire, vous prévoyez une nouvelle zone commerciale en périphérie de la ville. Cela aura pour effet de faire un peu plus souffrir notre centre-ville. Or, parlons du centre-ville. Heureusement que les vitrines d'Épernay entreprennent des actions salutaires pour redynamiser l'attractivité. En effet, notre ville manque cruellement d'animation pour la faire rayonner comme capitale du Champagne. Je pense que ce nouveau budget manque de volontarisme dans ce domaine. Les touristes affluent toujours dans notre ville. C'est heureux, mais quid des offres d'activité ? Par exemple, Épernay devrait se doter d'un marché de Noël afin de fixer les touristes le jour de Noël dans la ville et permettre à nos commerçants de profiter de cette fête pour augmenter leur chiffre d'affaires. J'invite mes collègues à se rendre sur le site épernay.fr à l'agenda. Prenez par exemple le mois d'août, il n'y a strictement aucune animation de prévue pour le moment. Mais rassurez-vous, les autres mois ne sont guère mieux fournis. Nous n'avons généralement que des expositions au programme. Nous pourrions par exemple organiser des concerts de rue en partenariat avec l'école de musique ou du théâtre, en complément du festival Voilà l'été, organisé en juillet. En bref, tout ce qui pourrait participer à améliorer l'image culturelle de notre ville. Pour ne rien arranger, monsieur le maire, j'ai appris que vous avez été contacté, tout comme moi, pour les problèmes rencontrés dans notre office du tourisme. Que comptez-vous faire pour régler ces problèmes ? À quand la visite du médiateur prévue depuis septembre 2017 ? Je vous remercie.
Merci. Monsieur Durançois.
Merci. Au-delà des chiffres, c'est plus du bien-être que recherchent au quotidien les Sparnassiens dans notre ville. Les calculs à la façon du jeu des chiffres et des lettres de l'opposition de gauche ou bien les plus de 130 pages du budget ne les intéressent pas. Ils ont besoin de concret et de voir les choses bouger dans leur quotidien. Le tourisme, pour le prendre en exemple, est certes essentiel, mais il ne doit pas primer par rapport à la vie de tous les jours de nos administrés. Les effets d'annonce importent peu. Décorer une vitrine, c'est bien, mais une fois entré dans la boutique, il ne faut pas que le contenu fasse fuir le client. Baisser symboliquement le prix de l'amende de stationnement ou décorer la rue Jean Mouette avec 4 véhicules électriques qui prennent racine ne peut suffire pour contenter des administrés qui se sentent délaissés d'année en année. Monsieur le maire, n'oubliez pas que seuls 4 000 électeurs sur 15 000 inscrits ont porté leur voix sur vous en 2014 et que la majorité d'entre eux ne vous ont pas porté sur le perron de la mairie. Une majorité d'électeurs ne se sent pas écoutée aujourd'hui. Une majorité d'électeurs qui compte sur diverses oppositions présentes ici aujourd'hui, mais malheureusement opposition qui est réduite à regarder ce qui se passe, faute de concret avec la majorité qui repousse tout travail constructif dès que cela vient d'ailleurs. Récemment, plusieurs élus de tous bords vous ont invité à vous remettre en cause. Nous ne pouvons que les rejoindre sur ce sujet. Être à l'écoute de tous, comme par exemple des riverains de la Coulée Verte qui n'ont toujours pas de réponse à leurs problèmes, ou bien des restaurateurs que vous n'hésitez pas à censurer sur les réseaux sociaux dès qu'ils proposent quelques idées hors majorité lors de la période de Noël. Donc, être à l'écoute ne pourrait qu'être bénéfique pour tous. À ce sujet, Chantal Clément et moi-même souhaiterions que soient transformés les comités de quartier en conseils de quartier, comme cela existe à Bernon, ou bien comme cela se fait depuis de nombreuses années à Reims. Cela serait plus utile qu'un bilan de mi-mandat où l'opposition n'est même pas invitée. Pour conclure, et avant notre abstention pour ce vote, nous espérons que Monsieur le maire d'Épernay enfilera cette année la casquette de citoyen sparnassien, ce qui le changera des casquettes de maire, président de la communauté d'Aglo, vice-président de Régio, ou bien encore président de l'association des maires de la Marne. Reconnecter avec la réalité fait du bien de temps en temps et permet de se poser quelques questions essentielles. En vous remerciant, merci de ne pas oublier le quotidien des Sparnassiens.
Merci. Bien, je vais essayer de répondre à, je ne sais pas combien, il y a peut-être eu 50, 60 questions diverses, plus ou moins importantes. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre que j'ai noté. D'abord, Monsieur Lefebvre, vous dites que c'est un budget qui a été plus facile à faire compte tenu de l'augmentation des recettes. Il se trouve que les recettes, on a été les chercher. Je veux dire par là qu'elles n'étaient pas données. Vous savez que l'État baisse régulièrement ses dotations aux collectivités. Elle baisse cette année moins que les autres années, je l'ai dit dans mon propos introductif, mais elle baisse quand même. Et si on a pu effectivement financer 15 millions d'euros d'investissement cette année, c'est parce qu'on a été chercher ces financements, à la fois auprès des collectivités partenaires, en leur proposant des projets séduisants, correspondant à leurs attentes et correspondant aux exigences du développement culturel, sportif, économique, commercial de la ville. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher des subventions. Et en même temps, en allant rencontrer des acteurs locaux pour les convaincre d'investir dans un projet important comme celui du musée, qui, bien au-delà de la simple rénovation, de la restauration du bâtiment, est un projet identitaire très fort, puisqu'on retrouve dans ce musée des collections uniques concernant le Champagne et concernant l'archéologie régionale. Ça me donne l'occasion de préciser que en matière de mécénat, il faut être prudent, que nous avons des contacts constants avec un certain nombre de mécènes qui examinent pour certains les contrats de mécénat que nous leur avons soumis, qui ont pris un certain nombre d'engagements et qui les tiendront, parce que ce sont des gens qui tiennent leurs engagements comme nous le faisons de notre côté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants dans le mécénat que ce magnifique projet permettra de collecter, à l'image de la concrétisation de ce mécénat qui s'est faite pour la Maison Paul Roger il y a quelques semaines de cela. Vous dites que vous nous soupçonnez de vouloir augmenter la taxe sur les transactions. immobilière, elle n'a pas augmenté. Enfin, c'est le produit qui augmente. Mais si le produit augmente, c'est directement le nombre de transactions qui augmente. Quand l'activité économique reprend, quand les taux d'intérêt baissent ou sont faibles et que l'activité reprend et que l'optimisme revient, et je crois qu'on doit tous s'en féliciter, c'est cela qui génère une augmentation du produit de la taxe sur les transactions immobilières. Ce n'est pas une évolution du taux de notre part. Concernant la taxe de séjour, le montant est effectivement un montant inchangé, tout simplement parce que ce sont des données prévisionnelles, qu'on préfère être un peu pessimiste au cas où des incidents interviendraient. Je rappelle que notre pays a été frappé par des attentats qui ont parfois fait chuter les activités touristiques. Donc partir avec une croissance de la taxe de séjour de 20 ou 25%, ça fait plaisir sur le papier, mais si ça ne correspond pas à la réalité, on n'en sait rien. Donc il vaut mieux, dans cette hypothèse-là et dans ce domaine-là, en matière de recettes, être toujours prudent. C'est en tout cas la consigne qui est donnée à nos services, parce qu'il vaut mieux apprendre une bonne surprise et avoir un peu plus de recettes en fin d'année plutôt que d'avoir prévu un niveau de recettes supérieur à ce qu'il est et être contraint de faire des arbitrages douloureux, ce qui nous vaudrait immédiatement vos critiques, et elles ne seraient pas totalement injustifiées dans cette hypothèse. Concernant l'évolution des effectifs, les effectifs de la ville diminuent légèrement cette année. Tout simplement parce que nous avons des départs en retraite importants, que certains postes n'ont pas à être remplacés par des réorganisations constantes qui sont opérées au sein de nos services, par l'évolution de certaines missions également. Je rappelle que nous avons eu des postes transférés à la communauté d'agglomération qui n'ont pas pour autant engendré une économie pour la ville, mais la mutualisation de nos services, la dématérialisation de nos procédures, la modernisation et la réorganisation de nos services, c'est quelque chose que toutes les collectivités réalisent. Et c'est ce qui permet de contenir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement en général. Sur les associations, contrairement à ce que vous dites, le montant global des concours aux associations est en augmentation. Il faut effectivement ajouter aux subventions versées par la ville celles qui sont versées par le CCAS, et c'est le produit des deux qui aide le monde associatif. Je reconnais que pour un certain nombre d'associations, il y a quelques baisses, des baisses qui sont en général extrêmement minimes, qui tiennent compte de l'objectif qui était le nôtre, de contenir l'augmentation des dépenses de fonctionnement, sachant que le niveau moyen de subventionnement que nous apportons au tissu associatif local est tout à fait conséquent. Nous avons toujours dit et nous l'avons toujours démontré à travers nos conventions d'objectifs et de moyens que les associations jouaient aux côtés des services de la ville un rôle extrêmement important dans différents domaines, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine du loisir notamment. Et évidemment, nous ne pouvons nous passer de ces acteurs associatifs, et je me réjouis de la qualité des relations que nous avons avec eux. Concernant j'ai un trou de mémoire concernant les associations. J'avais encore un truc à vous dire, mais ça va me revenir tout à l'heure en regardant les interventions des uns et des autres. Concernant le coût des équipements qui, pour vous, est en augmentation constante, ce coût est intégralement compensé. Les clubs sportifs d'Épernay, les associations culturelles se voient effectivement facturer des coûts d'utilisation des équipements, mais c'est intégralement compensé par la ville. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir une réalité des coûts pour la collectivité, qui permet aussi, parce que c'est une demande des autres collectivités, d'avoir une vision complète de l'activité sportive ou culturelle de la collectivité. Et si ces coûts apparaissent en augmentation, vous verrez apparaître à due proportion en recettes des coûts équivalents pour que précisément ça ne pèse pas sur le monde sportif ou le monde culturel. Alors vous critiquez toujours les crédits fêtes et cérémonies comme si c'était des pince-fesses qu'on organise ici à longueur de journée. La politique événementielle, elle est importante à Épernay. Et si j'entends bien, pour vous, on n'en dépense pas. Pour Madame Demange, il ne se passe rien à Épernay. Je suis toujours surpris d'entendre ce genre de critiques quand je constate l'étendue des manifestations pour une ville de 25 000 habitants. Je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qui se passe à Épernay entre les activités qui se déroulent en centre-ville, entre les activités culturelles, la fête de la bière, le festival des musiques, voilà l'été, la saison théâtrale, le Millésium. Je pourrais la fête les habits de lumière, la champagne en fête. J'en oublie très certainement d'autres. Je pense qu'on a une activité événementielle extrêmement importante, aussi parce que nous avons une population qui le souhaite et qui le demande, et il suffit de constater le succès de ces manifestations pour se dire que nous ne sommes pas à côté de la plaque. Et aussi parce que quand on est une ville touristique, on se doit d'avoir une ville animée, parce que cette animation contribue à conforter l'image d'une ville accueillante, et c'est un point qui me semble extrêmement important. Concernant l'encours de la dette, vous dites que la ville est trop endettée, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'années de remboursement, parce que évidemment, l'endettement se calcule par rapport à la capacité de remboursement d'une entité ou d'un individu ou d'une famille, et c'est ce score, enfin ce ratio qui est important. Et vous avez vu tout à l'heure que le ratio de l'encours de la dette sur nos recettes nous permet d'afficher un taux qui est bien meilleur que la plupart des villes. C'est dire que notre capacité de désendettement est importante et que donc notre niveau de dette est tout à fait correct. C'est vrai qu'il augmente très légèrement cette année parce que nous avons un équipement majeur à financer qui est le musée du vin de Champagne et de l'archéologie régionale, nom qu'il a déjà depuis pas mal de mois, n'est-ce pas, Christian? Mais il fallait bien faire cette opération, il fallait bien la sortir. Vous l'avez d'ailleurs approuvé. Et cet investissement important, qui sera grosso modo d'une vingtaine de millions d'euros, est un investissement fortement attendu par les Sparnassiens. Sur quelques sujets que vous avez évoqués, la vente du palais de justice, elle est en cours. Donc elle interviendra très prochainement, sans doute d'ici le printemps. Donc aujourd'hui, les actes, enfin, il existe des engagements réciproques, mais les actes ne sont pas ratifiés, mais tant à l'égard de la ville qu'à l'égard du département, le porteur du projet s'est engagé. Concernant la piscine de Bernon, effectivement, pour l'instant, le terrain a été remis à niveau parce que c'était l'une des conditions pour qu'on puisse faire quelque chose dessus. On ne pouvait pas conserver cette cuvette qui posait un problème d'accessibilité évident. Là aussi, peut-être qu'un projet verra le jour prochainement, et j'allais dire au même titre que nous avons engagé une démarche participative pour d'autres aménagements, on peut imaginer, sans que ce soit évidemment une piscine, que des projets voient le jour. En tout cas, j'ai été à ce jour destinataire d'aucun projet précis. Concernant l'étude du Palais des Fêtes, elle est lancée. L'étude du Palais des Fêtes, hall annexe du Millésium, elle est lancée. On devra avoir les résultats dans le courant du printemps. C'est important parce que comme nous avons la DSP, délégation de services publics pour le Millésium au niveau de la communauté d'agglomération, c'est un élément qui prend en ligne de compte, d'où la nécessité d'engager cette étude au premier semestre. Concernant l'ancienne maison des associations, nous travaillons sur différents projets. Nous avons un candidat pour le rachat de ce bâtiment, mais tant que les négociations sont en cours, il ne me paraît pas forcément opportun de dévoiler les intentions de ce candidat à l'acquisition. Vous en serez évidemment informé. Concernant les différents projets, je laisserai à Jonathan évoquer la question de Noémie qui s'inscrit dans le cadre des différents projets autour du développement durable. Je rappelle quand même que vous dites qu'on ne fait plus d'opérations de nettoyage des coteaux. Moi, j'ai plutôt le souvenir qu'il y en avait une très importante l'année dernière avec le soutien du groupe Mumpayejouet, qui avait quand même dépêché 500, 600 personnes qui étaient venues passer une journée à nous aider en la matière, et je leur en suis infiniment reconnaissant. Nous avons chaque année des opérations autour de l'environnement. Concernant les bains douches, c'est effectivement une propriété privée pour l'instant, et nous espérons que l'un des projets plus ou moins évoqué régulièrement aboutira rapidement, mais nous ne sommes pas maîtres du jeu puisque nous ne sommes pas propriétaires de ce foncier, de ce bâtiment. Concernant les pistes cyclables, en théorie, effectivement, il serait souhaitable de réaliser des pistes cyclables à chaque fois qu'on réalise de nouvelles rues ou qu'on refait des rues. Mais vous savez comme moi que la caractéristique de notre ville, et souvent des villes moyennes, c'est d'avoir à la différence de grandes métropoles qui ont des grands axes de pénétration, nous avons des rues qui sont souvent contraintes, dans lesquelles il faut faire passer le trafic des automobiles, parfois dans deux sens. Il faut offrir des possibilités de stationnement et il faut respecter la réglementation handicapée qui nous commande d'avoir parfois jusqu'à deux trottoirs d'un minimum de 1,40 m. Quand vous avez le bâti qui fait 8 mètres de large ou 9 mètres de large, entre les deux côtés de la rue, on ne peut pas caser des pistes cyclables partout. C'est la raison pour laquelle on cherche des itinéraires alternatifs. C'est faisable dans certains cas. Ça ne l'est pas systématiquement et malheureusement, on n'est pas dans une ville nouvelle qu'on construit, on est dans une ville dont on a hérité et l'urbanisme de cette ville qui date de plusieurs siècles, c'est quand même une contrainte qu'on ne peut pas gommer comme vous semblez le faire en disant voilà, on devrait faire dans toutes les rues des pistes cyclables, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut nous dire où on supprime le stationnement, où on supprime la circulation automobile et je pense que les Sparnassiens concernés seront ravis de vous accueillir pour vous expliquer les problèmes que ça engendrera dans leur vie quotidienne. Concernant les territoires innovants, le projet territoire innovant, on en reparlera dans le cadre de la communauté d'agglomération, parce que c'est un projet qui est porté par la communauté d'agglomération d'Épernay, mais sachez que les équipes de la ville et de l'agglomération y travaillent. Nous sommes en cours de constitution d'un consortium des différents partenaires de ce projet. Sur Berge de Marne, les choses avancent. Il y a des programmes d'études importants. Je rappelle que nous ne sommes toujours pas propriétaires aujourd'hui de ces terrains, que c'est toujours la SNCF qui en est propriétaire, qu'elle est toujours dans sa phase de dépollution et que, évidemment, les choses pourront véritablement évoluer le jour où la SNCF sera en capacité de céder ce foncier. Concernant Agencia travaille pour le compte de la ville, est missionnée pour conduire un certain nombre d'études pour notre compte. Alors, des études que fait Agencia, mais surtout des études que suit Agencia pour le compte de la ville. Concernant la stabilité démographique de la ville, c'est une bonne nouvelle cette année. Maintenant, il faut que les choses continuent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, dans le cadre de la révision du PLU, nous avons retenu un certain nombre d'OAP qui ont pour objectif, précisément, de permettre des reconstructions, de permettre de restructurer des quartiers de la ville, dans le but, notamment, d'accueillir davantage d'habitat, d'accueillir également, de créer également les conditions d'un renouveau démographique de notre territoire, qui est évidemment une volonté politique, mais qui se heurte à une réalité technique, c'est que Épernay est quasiment urbanisé à 100%. La seule, on va dire, véritable opportunité foncière qui nous reste, c'est Berge de Marne. Je rappelle qu'on est encerclé par du terrain en AOC, qu'il n'est pas question d'arracher des vignes pour construire des logements. Au nord, on est cerné par une plaine inondable. Et je pense qu'il suffit de voir l'état de la plaine en ce moment pour se rendre compte qu'elle est réellement inondable. Et que, évidemment, nous n'avons pas les possibilités de construction qu'ont beaucoup de villes. Je vais citer les villes voisines comme Chalon ou Reims, qui peuvent s'étendre et consommer des centaines d'hectares chaque année, pour la simple et bonne raison qu'ils sont sur du terrain plat et qu'ils n'ont pas les coûts de foncier que nous avons autour de chez nous. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Ça implique simplement cette situation que la ville soit en capacité de se reconstruire sur elle-même. Et c'est beaucoup plus complexe parce qu'évidemment, les coûts ne sont plus les mêmes. Et c'est ce que nous faisons depuis des années. Concernant la solidarité, je ne vais pas aujourd'hui développer toutes les actions que nous menons dans le domaine de la solidarité, mais Annie est à votre disposition pour vous présenter, et il faudra d'ailleurs qu'on le fasse dès que le vote du budget du CCAS sera intervenu, pour présenter l'action sociale de la ville à travers le CCAS. Nous l'avions fait déjà par le passé dans le cadre d'un rapport d'information, mais cette action sociale n'est pas en diminution, loin s'en faut. Que nous intervenons, nous l'avons démontré dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle avec des équipements remarquables. Je ne reviens pas sur le sujet, je l'évoquais tout à l'heure, que nous intervenons au quotidien auprès des personnes en difficulté. Alors, c'est vrai qu'on le fait dans la discrétion, mais on le fera toujours dans la discrétion parce que c'est la meilleure preuve de considération que nous pouvons apporter aux personnes que nous aidons, que sur les critiques qui ont été exprimées concernant le panier solidaire. Là encore, nous avons entendu des propos complètement différents des dirigeants qui apprécient la qualité des locaux, les travaux qui ont été faits, les conditions d'accueil qui leur ont été réservées. Je précise, et je le dis parce qu'Annie l'a dit tout à l'heure, que nous avons même comprimé l'espace de l'épicerie sociale pour réserver plus de places que prévu à l'origine au Resto du Cœur, et que je me félicite que l'action coordonnée des associations de manière générale et de la ville permet de faire en sorte que aucun Sparnassien ne court le risque de ne pas pouvoir s'alimenter. Nous avons différentes pistes en la matière, l'épicerie sociale, les Restos du Cœur, d'autres associations caritatives, par exemple le Secours Populaire et d'autres contribuent également à faire en sorte qu'il y ait une diversité de solutions en la matière. Et je puis vous assurer que la générosité et le dynamisme de ces acteurs, qu'ils soient associatifs ou institutionnels comme au CCAS, est tout à fait louable et mérite d'être encouragé. Dernier point, vous dénoncez le niveau de chômage de la ville. Il faudra peut-être qu'un jour vous modifiez votre logiciel en la matière. Quand je rencontre les autorités de l'État, que ce soit le préfet de la région Grand Est ou le préfet de la région de la Marne, quand on regarde les statistiques bassin de vie par bassin de vie, bassin d'emploi par bassin d'emploi, on est le quatrième bassin d'emploi de la région à se porter le mieux. Alors, il y a évidemment des différences qui peuvent exister au sein d'un bassin d'emploi, mais quand vous savez que 95% des logements sociaux du bassin d'emploi sont à Épernay, c'est pas anormal que la population la plus en difficulté soit plutôt à Épernay et que la population qui va bien soit plutôt dans le vignoble. C'est pas une critique quand je dis ça, c'est une réalité. Ça existe depuis très longtemps, mais ce qui compte, encore une fois, c'est le bassin d'emploi, pour la simple et bonne raison que les entreprises, certaines d'entre elles sont épernées, mais les plus grosses zones d'activité sont quand même à l'extérieur, et qu'on ne peut pas d'un côté calculer ville par ville et de l'autre considérer que on ne doit prendre en considération que les chômeurs qui vivent dans la ville et pas dans l'agglomération. Les résultats sont tout à fait positifs en la matière, et en tendance et en chiffre absolu, et pour autant, ce n'est pas de l'autosatisfaction. Pour autant, il faut constamment faire mieux. Et si, par exemple, nous engageons un projet visant à encourager la création d'entreprises dans le cadre de la nouvelle pépinière qui verra le jour dans quelques jours, c'est précisément parce qu'on n'a jamais assez d'emplois. Si on fait un développement du tourisme, c'est précisément parce que c'est aujourd'hui le secteur qui crée le plus d'emplois et que je suis toujours surpris de vous entendre critiquer le soutien qu'on apporte au tourisme, alors que c'est depuis 5 ou 10 ans le secteur qui a créé le plus d'emplois dans notre bassin de vie. Et donc, il y a quelque part un paradoxe entre dénoncer le niveau du chômage et nous reprocher de faire de l'activité qui crée des emplois. Concernant monsieur Richard, bon, pas de surprise concernant votre vote. Hein, je ne m'attendais pas à autre chose qu'un vote contre. Sur les populations les plus fragiles, j'en ai dit un mot à l'instant. Je voudrais quand même indiquer que les populations les plus fragiles sont exonérées de taxes d'habitation. Elles le seront encore plus dans les années qui viennent avec la suppression de la taxe d'habitation qui, de ce point de vue, présente un double visage. Pour les contribuables, c'est une bonne chose. Et parce que vous le savez comme moi, la taxe d'habitation était un impôt particulièrement injuste, puisque ces bases n'avaient jamais été révisées. Donc, du point de vue du contribuable, et ça a sans doute contribué au succès d'Emmanuel Macron, la proposition de supprimer la taxe d'habitation a été plébiscitée. Du côté des collectivités, c'est un autre problème, puisqu'effectivement, si il n'y a pas de compensation sous forme d'impôt, l'impôt étant synonyme de liberté, à la différence de dotation qu'attribue l'État, il y a un risque majeur sur l'avenir du financement des collectivités. Et le débat qui oppose aujourd'hui les élus locaux au gouvernement n'est pas un débat droite contre gauche, c'est un débat contre élus territoriaux qui savent que la fiscalité est une liberté et une condition pour mener des actions au service de leur territoire, et s'inquiète à juste titre de la suppression de la taxe d'habitation sans que soit annoncée à ce jour aucune réelle compensation à cette suppression d'un impôt ô combien important, même s'il était extrêmement injuste. Concernant la TOM, je rappelle que d'abord ça concerne la communauté d'agglomération, que le produit fiscal de la communauté d'agglomération avant et après la TOM est équivalent au centime près, donc il n'y a pas eu de pression fiscale supplémentaire, que 94% de la population française paie la TOM, et pour les plus anciens depuis des décennies, que nous étions une anomalie et que cette anomalie avait été dénoncée en d'autres temps par la Chambre régionale des comptes et qu'il fallait faire en sorte que le financement des déchets, comme le prévoit la loi, soit payé par un prélèvement sur les producteurs de déchets. Et que je sache, tous les habitants d'une ville sont producteurs de déchets. Si cette loi a été voulue comme cela, c'était pour, aussi pour responsabiliser, en tout cas les évolutions qui ont lieu sur cette loi il y a quelques années avaient pour objectif de responsabiliser chacun des citoyens sur la production de déchets. C'est d'ailleurs ce qui nous encourage à aller progressivement vers un système de fiscalité incitative. Ce n'est pas encore mûr aujourd'hui, mais on y viendra nécessairement, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir faire évoluer le montant de la taxe sur les déchets en fonction de la production de déchets. Si demain, les Sparnassiens, mais tous les habitants de la communauté d'agglomération produisent moins de déchets, il serait normal qu'ils payent moins de TOM. Si en revanche, ils relâchent leur attention et qu'ils se mettent à produire du déchet en quantité, ils paieront plus. C'est le principe d'une certaine forme de justice et surtout c'est un principe de responsabilité que souhaitent promouvoir les pouvoirs publics, quelle que soit la sensibilité de ces pouvoirs publics, tout simplement parce que c'est en rendant les habitants responsables, les citoyens responsables de l'environnement, à travers notamment les coûts qu'engendrent les dégradations de l'environnement, qu'on fait progresser l'ensemble de l'humanité vers un plus grand respect de la planète, que ce soit dans la consommation d'espace, que ce soit dans la pollution, que ce soit dans la production de déchets de manière générale. Et notre objectif est évidemment d'éviter que demain, des comportements individualistes ne contribuent en se multipliant à polluer davantage la planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous m'avez évoqué le chapitre 65-548. C'est ça, 65-548, c'était le... qui était en baisse, c'est ça? C'est la... c'est ça? Moi, j'avais noté un autre numéro, j'avais noté 65-348, mais... C'est combien? Pourquoi? Parce que ça baisse, ça augmente, c'est... Ah, ça concerne les contributions aux organismes de regroupement. En l'occurrence, c'est la participation pour les syndicats. Oui, oui. On parle de syndicats intercommunaux. Hein. Ce n'est pas des syndicats représentants du personnel. Hein. Syndicats intercommunaux. Pardon? Ah, la fête, oui. Oui, la fête, je l'ai oublié, effectivement, je l'avais noté, mais je l'ai oublié. La fête, des rencontres ont lieu régulièrement. Jacques en a encore eu cette aujourd'hui avec les forains. J'avais écrit aux forains pour leur indiquer que deux options pouvaient exister. La première, c'était le déménagement au Milésium. La deuxième, c'était le maintien sur site dans le cadre d'un espace nécessairement réduit. Nous poursuivons nos discussions avec eux. Les deux options sont encore ouvertes pour... cette année, puisque les projets à ce jour ne sont pas totalement arrêtés. Ce qui est clair, c'est que ce qui a une certitude, c'est qu'à partir de l'année prochaine, ce ne sera plus possible, puisque la perte de surface serait trop importante et risquerait d'amputer fatalement la fête foraine. Et donc, les forains que nous avons rencontrés, notamment au moment de la fête foraine au mois de septembre dernier, convenaient pour certains d'entre eux que... effectivement, plutôt que de voir la fête se réduire comme peau de chagrin centre-ville, il valait mieux imaginer autre chose. Tous ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a des divergences de vues, des tensions parfois aussi. Et il nous faut écouter les uns et les autres. Ce n'est pas facile quand vous avez des interlocuteurs qui, pour certains, plaident pour la solution A, pour d'autres pour la solution B. Mais j'espère que le dialogue qui est entretenu, notamment par Jacques, et qui le fait avec beaucoup d'implication personnelle, nous permettra d'aboutir à une solution rapide qui soit conforme à l'intérêt des uns et des autres. Non, ça avait été évoqué par les forains, mais j'avais indiqué que c'était une solution qui, en tout état de cause, ne pouvait pas voir le jour avant 8 à 10 ans, puisque il faudrait transformer, aménager une plateforme, être déjà propriétaire du site, et il ne faut pas non plus obérer les possibilités de développement qu'offre le site Berge de Marne. Donc le sujet a été évoqué en septembre dernier, mais
il n'y avait pas d'ambiguïté sur mes propos, c'est que c'est une piste, mais une piste lointaine, et en tout état de cause, ce n'est pas forcément la piste à privilégier compte tenu des contraintes qu'il faudra surmonter pour parvenir à cette solution. Je poursuis avec Cindy Demange, bon, qui me surprend quand elle dit que rien n'est prévu pour redynamiser Épernay. Je pense que vous devez souffrir d'amnésie de temps en temps, parce que quand on voit la diversité des actions qui sont proposées, je pense que la ville démontre sa volonté d'investir. Quand je vous entends parler des vitrines d'Épernay, il faudrait peut-être que vous demandiez aux vitrines d'Épernay qui est le principal soutien des vitrines d'Épernay. Je pense qu'elle vous dira que c'est la ville. Que nous aidons le commerce à travers non seulement une politique d'animation commerciale, mais également avec la généralisation du stationnement gratuit pour la première heure, que si nous n'avons pas augmenté la taxe post-stationnement, c'est pour ne pas pénaliser aussi le commerce de centre-ville et dissuader, comme le font d'autres villes voisines. Je rappelle qu'on doit être aux alentours de 35 euros à Châlons-en-Champagne. À Reims, on doit être au-delà de 35 euros en cas de 25. Bon, nous, on est à 16,5. Vous nous excuserez, mais on est plus modeste en la matière. Qu'à Paris, on doit être à 70 ou je sais plus. Enfin, c'est des sommes colossales. Que nous ne considérons pas que le matraquage du stationnement payant soit forcément une bonne politique, notamment pour attirer des clients vers le centre-ville. Nous avons un parking aujourd'hui qui se remplit de jour en jour, celui du parking centre-ville, et ça vient récompenser les efforts qui ont été faits en matière de modernisation de ce parking. Nous aurons très certainement d'autres parkings comme celui du centre-ville, c'est-à-dire d'autres parkings en ouvrage dans les années qui viennent. Si le projet que nous avons sur le Jard se développe, il faudra sans aucun doute créer un deuxième parc de stationnement souterrain pour économiser de l'espace en surface et cacher ce spectacle qu'est des centaines de voitures à coller les unes aux autres, qui n'est pas évidemment quelque chose forcément de très attirant, même si c'est utile. Et aujourd'hui, nous savons que dans des parkings modernes, on peut parfaitement accueillir des Sparnassiens, des habitants de notre bassin de vie ou des touristes en grand nombre, dans la mesure où la stigmatisation autour des parkings n'existe plus, compte tenu des efforts qui ont été faits depuis longtemps en la matière. Concernant le marché de Noël, c'est un éternel débat. Je suis favorable à des animations de Noël, mais j'ai toujours privilégié des animations de Noël qui étaient en adéquation avec notre identité. Les marchés de Noël, j'adore, mais j'adore en Alsace, j'adore en Allemagne, j'adore dans les régions de l'Est. C'est pas la tradition champenoise, même si Reims en a un, c'est pas une tradition champenoise. À nous d'inventer peut-être d'autres formes de manifestations autour de l'identité champenoise. C'est en étant nous-mêmes qu'on attire les gens, c'est pas en essayant de copier les autres qu'on peut le faire efficacement. Qui plus est, un marché de Noël a des avantages, mais aussi des inconvénients. Il ne faut pas oublier que demain, installer 25 ou 30 chalets en centre-ville d'Épernay, c'est attirer 25 ou 30 commerces qui seront en concurrence directe avec les commerçants existants qui, eux, payent leurs taxes toute l'année. Et pour certains d'entre eux, tousseront si demain on multiplie cette forme de concurrence. Je pense qu'il faut savoir dynamiser un centre-ville et les animations de Noël de cette année étaient globalement réussies, même s'il reste des points d'amélioration en la matière. On va continuer à y travailler avec les vitrines d'Épernay pour faire en sorte d'avoir un centre-ville toujours plus accueillant au moment des fêtes de fin d'année. Quant au mois d'août, il y a effectivement moins d'animations à Épernay au mois d'août. Il y a néanmoins un certain nombre de manifestations, des concerts, alors qui évidemment ne sont pas pour l'instant programmés puisqu'ils ne sont même pas encore connus. La programmation n'a pas été encore révélée pour les mois de juillet et d'août prochains. Je rappelle qu'on s'est entendu également pour ne pas faire concurrence au festival de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne, qui est totalement proche du nôtre et qu'à une époque, on avait des concerts qui se déroulaient en même temps que ceux de la Grande Vallée de la Marne et qu'on a décidé d'avancer les dates de nos concerts chez nous pour pouvoir les faire sur le territoire voisin et en parfaite complémentarité, les touristes et les Sparnassiens, parce que quand on va dans les concerts des alentours, on trouve aussi des Sparnassiens ayant pris cette habitude d'enchaîner les festivals plutôt que de les voir se superposer. Monsieur Durançois, le tourisme ne doit pas primer sur la qualité de vie. Je suis à 100% d'accord avec vous. Mais quand on refait l'avenue Jean Jaurès, par exemple, on le fait pour les Sparnassiens, on le fait en même temps pour les touristes, parce que c'est quand même plus agréable d'entrer dans une ville qui a un peu d'allure plutôt que d'entrer dans une ville où la rue est totalement sinistrée. Je ne vois pas un seul projet qui serait dédié au tourisme qui se traduirait par une pénalisation des Sparnassiens. Et réciproquement, quand on améliore la ville, quand on améliore nos quartiers, quand on améliore le centre-ville, on le fait avant tout pour les Sparnassiens qui en profitent tous les jours, mais on le fait en même temps pour les touristes qui sont contents de passer dans une ville propre, qui sont contents de passer dans une ville où le patrimoine est protégé et mis en valeur, qui sont contents de passer dans une ville fleurie, qui sont contents de passer dans une ville qui est aménagée et requalifiée avantageusement. Et je crois très sincèrement que vouloir opposer constamment les touristes comme si les touristes étaient des ennemis ou des concurrents des Sparnassiens, c'est ridicule. Je rappelle que l'activité touristique, encore une fois, génère de très nombreux emplois dont profitent des Sparnassiens et pas que des Sparnassiens, et c'est tant mieux. Et que sur les seuls projets hôteliers qui se dessinent dans notre agglomération dans les mois et les années qui viennent, dans les semaines et les années qui viennent parfois, c'est environ 200 emplois qui sont créés. C'est 200 emplois qu'un certain nombre de Sparnassiens pourront, dont les Sparnassiens pourront notamment bénéficier, même si le recrutement de ces différents projets ne concernera pas que notre ville. Concernant les comités de quartier ou conseils de quartier, nous avons créé un conseil de quartier à Bernon parce qu'il n'existait plus de comité de quartier et parce que l'ampleur des travaux justifiait que, dans le cadre des mesures d'accompagnement à l'ANRU, nous puissions réunir et travailler avec les associations, avec les habitants. Dans d'autres quartiers, quand il y a des comités de quartier qui existent pour certains d'entre eux depuis 40 ans ou 50 ans, je ne vois pas au nom de quoi la ville viendrait quelque part mettre fin à ces comités de quartier qui sont associatifs, qui font beaucoup de choses, beaucoup de sorties, beaucoup d'actions de solidarité, beaucoup d'animations. Je ne vois pas comment on pourrait venir de manière autoritaire leur dire maintenant, vous êtes bien gentils, c'est terminé, maintenant on va faire un conseil de quartier et c'est le maire qui le présidera. Ce n'est pas forcément ma conception de la démocratie locale. Quand vous dites qu'il serait temps que je me reconnecte avec la réalité, ce serait bien qu'un jour vous m'accompagniez dans les visites de quartier, dans les visites de comités de quartier, dans les chantiers. Vous découvrirez sûrement une face d'Épernay que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas le sentiment que vous soyez plus présent que moi dans les manifestations locales, au marché le samedi matin, dans les commerces locaux ou dans les rues d'Épernay lorsqu'il s'agit d'aller au contact des Sparnassiens. Mon implication au service de la ville est totale. Quand je représente, comme Mme Demange le fait, dans d'autres assemblées, mon territoire, je travaille au service de la région, mais je n'oublie pas non plus le territoire d'Épernay. Le projet que nous avons monté avec la région, avec l'ADEME autour des Psivins, fera de l'industrie du champagne une industrie qui a une longueur d'avance en matière d'économie circulaire. Ça servira le territoire sparnassien, ça servira le territoire champenois et ça servira notre planète. Donc je pense qu'on peut, travailler pour sa ville quand parfois on en est éloigné. Et je puis vous assurer que quand on obtient des investissements importants en matière de trafic ferroviaire, de nouveaux matériels roulants, même si ces matériels arrivent au compte-gouttes compte tenu des délais de commande, je n'ai pas le sentiment qu'on dessert sa ville quand on travaille sur des dossiers comme cela au niveau de la région. Et Mme Demange le sait bien, puisqu'elle voit passer, comme moi, à la région, des dossiers qui concernent tous les territoires et qui n'oublient pas le territoire sparnassien. Voilà, j'ai répondu, je pense, à l'ensemble des questions. Est-ce qu'il y a des points complémentaires que vous souhaitez aborder ? Oui, Jonathan, je devais te donner la parole.
Et merci pour permettre de répondre aux questions qui ont été posées sur l'environnement par Marc Lefebvre, mais aussi par M. Durançois. Sur la mobilité durable, finalement, les pistes cyclables, Noémie, l'autopartage, vous allez pouvoir être satisfait cette année, puisqu'on a été, là aussi, grâce à la région, à l'ADEME, lauréat de l'appel à projet sur la mobilité durable. C'est à l'échelle de l'agglomération, mais évidemment, la ville sera partie prenante fortement dans ce dossier. Et on aura une personne qui va être recrutée dans les prochaines semaines pour, sur les 3 ans à venir, favoriser la mobilité durable dans toutes ses formes, évidemment, que ce soit mobilité électrique, que ce soit le covoiturage, la marche à pied, le vélo, etc. Il y a plein de formes à imaginer et de formations ou d'informations à donner aux usagers, aux Sparnassiens et aux habitants de la communauté d'agglomération. Alors, évidemment, les pistes cyclables, ou en tout cas les voiries cyclables, le maire vous a répondu sur les problèmes techniques, mais il faut qu'on imagine des choses et la personne qui sera en charge de ce dossier devra, ça sera une de ses premières missions, c'est de travailler sur la mobilité cyclable et la connexion qu'on peut avoir avec nos villages limitrophes à Épernay sur l'agglomération. Alors, ce n'est pas forcément de créer des pistes cyclables, mais il faut trouver des connexions et on peut imaginer des choses. Il y a tout un tas de choses à imaginer. Il existe dans d'autres territoires des palliatifs à ces voiries cyclables. Il faut qu'on les applique aussi à Épernay. Noémie, c'est une plateforme de covoiturage qui avait eu le mérite en son temps d'exister. Nous avons été les premiers à le faire. Entre-temps, on a eu Blablacar qui est arrivé sur le marché, qui était beaucoup plus performant.
On n'était pas taille à rivaliser, bien. Objectivement.
Et tant mieux. Il faut plutôt qu'on s'appuie sur Blablacar que relancer Noémie, qui a eu le mérite d'exister en son temps, mais aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc, c'est Blablacar qu'il faudra qu'on contacte. On a déjà eu des contacts avec eux, pour ne rien vous cacher, pour améliorer les choses. Mais ça aussi, ça sera des missions de la charge d'émission en développement durable. L'autopartage, c'est un nouveau-né sur le territoire sparnassien. Il a à peine 2 mois. Donc, en effet, aujourd'hui, il n'est pas pleinement actif, mais il faut laisser le temps de grandir à ce nouveau-né. Mais il y a eu des ajustements à faire au niveau technique, puisque, comme toute nouvelle installation technique, il y a des connexions qui ne se font pas, et là, pour le coup, c'est par informatique, donc il faut qu'on améliore ça, c'est en train de se mettre en place, mais il y a déjà des gens qui l'ont utilisé, l'utilitaire ou les véhicules Zoé ont déjà été utilisés, maintenant, il faut développer le système, évidemment, il faut qu'on communique là-dessus, il faut qu'on forme les gens, parce que c'est une nouvelle façon de se déplacer, et il faut qu'on forme la population à s'en servir.
On a actuellement 31 abonnés, donc des gens qui utilisent régulièrement le service, et ça monte de jour en jour. Pour tout vous dire, j'aurais voulu, en ce qui me concerne, m'abonner il y a quelques jours, mais le système, le service informatique était défaillant, donc il y en aura bientôt un 32e en ce qui me concerne, puisque pour les besoins personnels, évidemment, c'est aussi utile de pouvoir bénéficier d'un véhicule en autopartage. Et nous continuons à communiquer, parce que beaucoup de Sparnassiens s'attendent essaient de découvrir la manière de s'abonner, en discutent, viennent nous rencontrer, et je suis persuadé que très vite, en tout cas, on est déjà au-dessus des objectifs qu'avait fixé la société CLEM, puisque on n'aurait jamais dû être à ce niveau-là aussi vite. Et j'ajoute qu'on est en train de travailler avec le CCAS également pour que des personnes qui ont très peu de ressources puissent en bénéficier. Donc il y a un travail qui est actuellement entrepris pour adapter les aspects juridiques la possibilité pour le CCAS de permettre l'accès à des personnes en difficulté d'accéder à ce service. Et là aussi, il trouvera une nouvelle utilité en la matière. Donc, très sincèrement, l'autopartage, c'est plutôt bien parti. Et je pense que ça va petit à petit entrer dans les mœurs et devenir un service. Cet après-midi encore, j'ai rencontré une personne qui m'expliquait qu'elle avait été contrainte de vendre ses voitures. Je lui disais, mais comment vous faites pour évoluer dans la vie? Elle me dit, écoutez, la ville a fait un truc génial. Elle ne savait pas qu'on avait une petite responsabilité en la matière. Et maintenant, on peut louer un véhicule, parfois pour 2 euros de l'heure. Et cette personne a fait ses calculs. Se priver de sa voiture, c'est sur le coup un sacrifice. Mais quand on sait qu'on peut utiliser les véhicules quand on le souhaite, certaines personnes vont faire le choix, et ce sera une excellente chose, parce que c'est aussi la finalité d'un dispositif comme celui-ci, faire le choix de renoncer à une voiture, que ce soit une voiture d'appoint ou à sa voiture principale. C'est un choix que feront un certain nombre de personnes. Il faut un peu de temps pour habituer nos concitoyens. Les Français sont souvent très attachés à leur voiture, mais habituer les gens à se passer d'une voiture et acheter du temps d'utilisation de voiture, c'est une démarche sur le long terme, et je suis persuadé qu'on en reparlera dans 3 mois ou dans 6 mois, et on verra que le dispositif est lancé et est bien parti.
Donc la personne chargée de la mobilité durable devra être recrutée bientôt. Évidemment, quand on parle de mobilité, on parle de territoire connecté et contigu à Épernay. Donc, elle n'aura pas vocation à se cantonner au territoire de l'agglomération. Et évidemment, les territoires limitrophes seront invités à participer à cette mobilité durable et à s'associer avec nous dans cette démarche. Et enfin, puisque Marc Lefebvre a envie de nettoyer la nature et participer à des opérations, il a loupé celle de l'année dernière apparemment, mais il pourra s'inscrire. Mais il pourra s'inscrire à celle qui a eu lieu au mois de juin, qui a été lancée par les clubs services, comme on dit, le Lions Club, le Rotary, etc., la Jeune Chambre économique aussi, qui se sont associés pour nettoyer la nature. Et ils ont lancé ce qu'ils appellent le défi 51 pour l'environnement. Et l'année dernière, au mois de juin, on a eu un samedi matin, une cinquantaine de personnes qui ont nettoyé les abords d'Épernay, les routes. Il n'y avait pas qu'Épernay, d'ailleurs, c'était aussi à l'échelle de l'agglomération. C'était pour préparer la Champagne, en fait, pour qu'on ait chacun un bel espace de vie pour cette Champagne, en fait. Voilà.
Merci. Est-ce qu'on peut... Oui.
Merci, M. le maire, d'avoir répondu cette année davantage aux questions. J'ai bien noté cela. Une seule petite question. Je vais poser sur les emprunts à 4,66, à 4,5%.
Est-ce que c'est renégociable ou pas,
Christine?
Alors, surtout que c'est des empreintes 2012.
Je tiens à vous rassurer, Monsieur Lefebvre, hein, puisque nous voyons régulièrement le service finance se regarde ce genre de choses. Et le calcul qui a été fait, si nous, à l'heure actuelle, renégocions notre prêt, il nous en coûterait une soulte d'un peu plus de 170 000 euros. Donc c'est pourquoi, pour l'instant, nous laissons ce prêt tel qu'il est. Nous ne le renégocions pas.
Ouais. Oui, mettre fin de manière anticipée à un emprunt, le rembourser de manière anticipée ou le renégocier, enclenche toujours une pénalité. Alors, quand la pénalité est faible et quand le gain que nous allons faire en termes de taux vaut le coup, bah, on le fait systématiquement. Il y a des fois, il vaut mieux attendre parce que les conditions aujourd'hui ne permettent pas, ce qui ne veut pas dire que dans 6 mois ou dans 1 an, on ne reviendra pas sur le sujet parce qu'on aura obtenu une forme de refinancement nettement plus avantageuse sans que ça coûte en pénalité à la collectivité.
Voilà. Il y en a 4 emprunts concernés, hein.
Oui, oui. Ben, ce sont les. J'ai fait un package avec l'ensemble. Pour autant, je tiens, en ce qui concerne une étude qui a été faite par France Finance Active, pardon, nous avons à la ville d'Épernay pour 2016, hein, les statistiques ont été faites pour l'année 2016, un taux moyen sur la ville d'Épernay d'1,75, alors que pour des collectivités de la même strate, parce que je sais que vous êtes très attachés, le taux moyen est de 2,86. Donc, vous voyez que nous avons des taux qui sont tout à fait très bien négociés
depuis,
dans notre collectivité.
Et depuis 15 ans, tous les ans, la charge de la dette baisse, y compris lorsque cette année, la dette va augmenter légèrement avec les 2 millions supplémentaires. Pour autant, nous pensons que nous paierons moins cher de dette cette année que l'année dernière, tout simplement parce que la gestion active de la dette nous permet d'aller chercher d'excellentes performances en la matière, mais pas à n'importe quel prix. En l'occurrence, quand effectivement, il y a une pénalité de 180 000 euros sur un emprunt, ça vaut le coup de réfléchir et d'attendre que l'opportunité se présente.
Alors, ça n'est même pas la pénalité, ce n'est pas l'indemnité de remboursement anticipé, c'est vraiment la soulte, c'est-à-dire que le calcul a été fait entre le gain avec des taux moindres et l'indemnité de remboursement anticipé.
Monsieur Durand-Soin.
Oui, une dernière chose. Au niveau de la fibre, il y a un calendrier de déploiement prévisionnel pour 2018, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de quartiers qui ne sont pas couverts sur Épernay.
Alors, la fibre, je rappelle que la fibre optique est déployée par Orange, opérateur historique à Épernay et dans toutes les agglomérations de la région Grand Est, par des accords passés entre l'État et la société Orange, qu'aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé 50% de la population. On a dépassé 60% de la population. Le problème, c'est qu'avec Orange, on a des à-coups dans le déploiement de la fibre et que subitement on passe à un pourcentage supérieur et puis il y a des moments où on a le sentiment que ça stagne. Alors je ne sais pas comment ils sont réellement organisés en la matière, mais ça va continuer à progresser et on devrait, je pense, arriver assez rapidement à plus de 75 ou 80% de la population. Comme on n'est pas à la manœuvre, à la différence du projet très haut débit porté par la région Grand Est, qui suscite évidemment beaucoup d'intérêt, on vit au rythme d'Orange. C'est Orange qui décide, puisque c'est lui qui est engagé à l'égard de l'État et pas à l'égard de la collectivité. On n'a aucun moyen de contrôle, puisqu'il n'y a pas de contrat entre Orange et nous. C'est un engagement qu'a pris l'État, qu'a pris Orange, qu'a pris SFR, qu'a pris Bouygues avec l'État. Et on est un peu spectateur. Mais évidemment, on ne manque jamais de relancer régulièrement Orange parce qu'il y a des demandes dans certains quartiers qui ne sont pas satisfaites, parce qu'il y a des quartiers dans lesquels on a un débit Internet moins performant que dans d'autres quartiers. Mais plus vite on ira, mieux ce sera. Oui, alors ça, je suis dubitatif, mais il y a peut-être des anomalies particulières. Mais globalement, je n'ai rencontré que des usagers de la fibre satisfaits parce que certains d'entre eux avaient, compte tenu de l'infrastructure dont ils disposaient avant, compte tenu de la localisation de leur maison, parfois dans un quartier, il y a des secteurs moins bien desservis que d'autres, globalement, tous ceux qui ont la fibre s'en satisfont largement. Bien, je vous propose de voter ce budget. Il y a ce budget avec les budgets annexes, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Avis contraire. Donc, pas 5, parce que vous n'êtes que 4. Oui, 4. 5. Abstention. 2. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. J'avais prévu de parler de culture, mais je crois que c'est la. Non, il y a les. Ah oui, c'est moi qui me suis planté. Oui. Rapport 2.8, Christine Mazzi.
Oui, merci. Donc, il s'agit en fait d'adopter l'attribution de subventions aux associations selon les annexes qui vous ont été adressées.
Merci. Y a-t-il des questions ? Oui. Vous votez le rapport sauf cette subvention-là, c'est ça ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Rapport 2.9. Oui. Rapport 2.9, Christine.
Alors, comme chaque année, je vous invite à adopter la délibération qui nous permet de procéder aux appels mensuels qui sont relatifs à la fourniture de chauffage pour les clients raccordés au réseau de chauffage urbain. À noter qu'à l'issue de la facturation annuelle, soit au premier trimestre de l'année suivante, une régularisation est effectuée, une fois que l'on connaît les tarifs définitifs.
Alors, globalement, les tarifs baissent légèrement. On a une baisse sensible du poste R1 qui correspond à l'énergie. On est sur la base de 27,50 € hors taxe par mégawatt-heure contre 38 € hors taxe l'an dernier. On est en progression, en revanche, de l'appel du R2 finançant la maintenance des installations, légèrement supérieure. Et on est en stabilité sur le poste R3 concernant les investissements sur le réseau de chaleur. Et globalement, ça baisse. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.10. Christine.
Alors, il s'agit de l'adoption du montant définitif des attributions de compensation, ce dont on a parlé lors de la présentation du budget. Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé le montant définitif des attributions de compensation. Il appartient maintenant à Épernay, comme à toutes les communes membres de la communauté d'agglomération d'Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne, de se prononcer sur la fixation de ces attributions de compensation en tenant compte du rapport de la CLECT, la commission locale d'évaluation des charges transférées.
Alors, je rappelle que les 50 communes de la communauté de communes sont concernées et que c'est l'évolution du système fiscal et notamment le fait que la fiscalité professionnelle est désormais collectée par la communauté d'agglomération qui implique des reversements sous forme d'attribution de compensation. L'objectif étant de faire en sorte qu'évidemment chaque commune retrouve à peu de choses près les sommes qu'elle touchait précédemment. Elle les touche désormais sous forme d'attribution de compensation alors qu'avant elle les touchait directement par la fiscalité professionnelle. Madame Perrin.
Serait-il qu'il y en ait qui soient en négatif et d'autres en positif? C'est l'évaluation qui a été.
Oui, c'est l'évaluation qui est faite commune par commune, c'est-à-dire que pour certaines communes, l'idée étant de compenser à l'euro près les transferts qui ont pu être opérés entre la ville, les communes et la communauté. Dans certains cas, le transfert est à l'avantage de la communauté, dans d'autres cas, il est à l'avantage de la commune. Quand, par exemple, en règle générale, les communes qui avaient une très grosse activité économiques ou industriels sont évidemment celles qui sont le plus indemnisées. Il y a aussi des collectivités, des petites communes qui n'avaient aucune activité ou aucune fiscalité professionnelle. Donc, l'un dans l'autre, les transferts de charges et les transferts de ressources conduisent à des attributions de compensation qui peuvent être ou bénéficiaires ou légèrement déficitaires. Mais bon, tout ça a été vu avec chacun des élus. Hein. Il a fallu évidemment l'expliquer à chacun, parce que sur le coup, on peut penser que la commune va va perdre des recettes. En fait, elle n'en perd pas puisque l'évolution des taux qui ont été l'évolution différenciée des taux entre l'ancienne CCRV et l'ancienne CCEPC vient compenser la baisse quand la perte quand elle est affichée. Oui. Avis contraire sur ce rapport. Abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2.11. Christine, toujours.
Il s'agit de reconduire par voie d'avenant et pour une durée de 3 ans la convention avec le centre de gestion de la Marne qui assure le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme. Il s'agit également de confier une nouvelle mission au centre de gestion qui est la mission relative à la déontologie et en lui confiant la désignation d'un référent déontologue conformément aux dispositions de la loi du 20 avril 2016. C'est une nouveauté.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.12. Ah, pardon, excusez-moi.
J'ai vu que vous confiez les commissions de réforme au CDG. Est-ce que, puisque les commissions de réforme sont là pour réviser pour se prononcer sur la capacité à continuer à travailler ou pas pour les agents, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour les reclasser ou pas, qui est pris, qui est fait et par qui?
Alors, bon, évidemment, la réforme d'un agent ne se décrète pas comme ça. C'est souvent après que l'accident est, enfin que l'agent ait pu avoir un accident ou une maladie grave. On respecte scrupuleusement la réglementation en la matière. D'ailleurs, les commissions de réforme auxquelles nous avons dû procéder sont assez rares. Quand elles interviennent, c'est parce que les avis médicaux, l'avis de la commission de réforme sont validés. Et de ce point de vue, on procède comme toute collectivité. Maintenant, quelles sont derrière les possibilités d'accompagnement qui s'offrent à nous? Bon, il y a toujours un suivi social qui se fait avec l'ensemble des agents. Et en tout cas, il y a bien au-delà de la fin de contrat, la direction des ressources humaines continue. Je le sais parce que il m'arrive d'avoir encore des contacts avec des agents qui étaient chez nous autrefois et qui ont dû nous quitter dans ces circonstances, continue d'apporter assistance, information aux agents qui le nécessitent et qui, pour certains d'entre eux, sont un peu désorientés et justifient que la DRH continue d'œuvrer à leur côté.
Exerce. Ça ne veut pas dire qu'avec une formation, ils ne puissent pas en exercer un autre.
Oui. Encore faut-il que la collectivité puisse leur offrir un poste qui corresponde à leur capacité.
Ce n'est pas dans le sens où la collectivité doit les garder en son sein.
Non.
C'est dans le sens où, à un moment donné, ils sont dans l'incapacité de continuer le métier qu'ils sont en train d'exercer et que la collectivité peut les accompagner en termes de formation. Pour trouver un emploi, mais pas forcément au sein de la collectivité.
Non, ça c'est un premier élément de réponse. D'accord.
C'est parce que oui. T'en as qui sont quand même réformés à 40 ans, et à 40 ans, ils se retrouvent avec 300 euros de retraite par mois. Quoi. Quand même un drame.
Le service des ressources humaines accompagne, mais comme le disait monsieur le maire, nous avons très peu de. Jusqu'à présent, moi je n'ai pas connu d'agents qui ont été réformés au niveau de la collectivité.
Non, on a des agents qui ont parfois été.
Qui ont des aménagements de
sanctionnés, poste. Ouais. Sanctionnés pour des manquements graves à leur fonction, c'est un autre problème. Mais on n'a pas eu de. J'ai pas le souvenir qu'on a eu de réforme ces dernières années.
Non, mais moi, je siège en commission de réforme et j'en ai vu passer qui, de par la maladie, ne peuvent plus exercer leur métier, mais ils ont à peine 40 ans. Et donc, quel est l'accompagnement qu'on a derrière, quoi? Parce que la commission de réforme, elle dit effectivement, ils peuvent plus. Faire la vaisselle ou faire le ménage, enfin voilà. Mais après, comment on les accompagne? Et c'est pas forcément pour leur trouver un emploi au sein de la mairie, mais c'est pour qu'ils puissent se reconvertir et continuer.
Mais je sais que la DRH a toujours été très attentive au sort des personnes en difficulté, notamment ceux qui ont été réformés. Mais je vous dis, il y a plusieurs années qu'on n'a pas eu de situation de réforme. C'est tant mieux. Sur ce rapport, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport. 2.12. Christine.
Donc, il s'agit de créer 2 postes d'animateur principal deuxième classe à temps complet afin de permettre la nomination de 2 agents qui ont réussi le concours. Donc, il passe d'animateur principal première classe à animateur principal deuxième classe. Tout simplement.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Abida Sharif, rapport 3.1.
Merci, Monsieur le maire. Les centres sociaux et culturels de la ville d'Épernay souhaitent mettre en place un atelier céramique en partenariat avec le club de prévention. Dans un premier temps, ces ateliers se dérouleront dans les locaux des clubs de prévention, la Maison Relais, et après, on les transférera, à terme, on les transférera au sein des centres sociaux. Donc, je vous propose d'autoriser la signature pour cette convention partenariat.
Merci. La céramique c'est, implique la présence de fours.
C'est la poterie, tout oui. simplement, qu'on a à la maison.
Il faut être vigilant là-dessus, parce que l'activité, c'est très bien, mais les exigences de sécurité autour des fours,
c'est un autre problème. On est très vigilants, c'est-à-dire qu'on voudrait toucher un public qu'on ne touche pas forcément, qui ne vient pas à la Maison pour tous. Donc, du coup, on va au club, à la Maison Relais, on va toucher un autre public et après, ce public viendra dans les centres sociaux, pas forcément pour faire seulement l'atelier poterie, mais pour faire d'autres activités qu'on a à leur disposition. Donc, on va vers la personne. Pour l'intégrer dans les activités.
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Magali Carbonel, rapport 3.2.
Merci, Monsieur le maire. Alors, ça concerne donc la réforme des rythmes scolaires. Donc, cours historique, depuis la mise en œuvre de la réforme en septembre 2014, les écoles primaires d'Épernay accueillent les élèves sur 9 demi-journées par semaine, réparties sur 4 jours et demi. Le décret, ensuite, du 26 juin 2017, autorise des adaptations à ce fonctionnement. Alors, il faut savoir que dès la rentrée 2017-2018, en France, sur le plan national, on a eu 44% des communes qui sont revenues à la semaine de 4 jours. Alors, la ville d'Épernay ne l'a pas fait à la rentrée. On a voulu faire une vaste concertation pour consulter tous les acteurs. C'est ce que l'on a fait donc, auprès des directeurs d'école, auprès des parents d'élèves, des personnels d'ATSEM et des associations qui interviennent dans le cadre du périscolaire. Alors, majoritairement, un avis s'est dégagé en faveur d'une distribution des heures sur 8 demi-journées réparties en 4 jours, laissant ainsi le mercredi matin. Et cette position donc, s'est confirmée lors des votes des conseils d'école, qui sont les organes représentatifs de la communauté éducative et dont les derniers se sont positionnés courant janvier. Il faut dire que les conseils d'école ont fait ça très très sérieusement. Beaucoup ont fait un deuxième conseil d'école dans le courant du premier trimestre pour laisser le temps aux professeurs de bien réfléchir et aux parents d'élèves de bien réfléchir à leur position. Ainsi, pour 8 écoles maternelles, les 8 conseils ont exprimé le souhait d'un retour à la semaine de 4 jours. Et en ce qui concerne les élémentaires, 5 conseils ont exprimé le souhait d'un retour à la semaine de 4 jours. Donc, 13 conseils d'école sur 15 ont demandé le retour à la semaine de 4 jours. Alors, fort de ces constats, je vous propose d'adopter une organisation du temps scolaire sur 4 jours contre 4 jours et demi actuellement. Et si vous en êtes d'accord, donc c'est cette position conjointe de la très large majorité des conseils d'école et de la collectivité qui sera communiquée au directeur académique des services de l'éducation nationale après par le biais de l'inspecteur de l'éducation nationale.
Merci. Des questions, Madame Perrin ?
Oui, si on pouvait avoir des réticences à la manière dont l'aménagement des rythmes scolaires avait été décidé par le gouvernement. Parce que, voilà, je trouvais que ce n'était pas forcément le bon angle qui avait été fait. Oui. On peut quand même dire que le côté positif de la chose, c'était de pouvoir permettre à des enfants qui n'avaient pas forcément accès à des activités culturelles, sportives ou éducatives, de pouvoir maintenant dans le même temps on constate qu'il y a quand même 150 257 euros non affectés sur le budget du contrat ville et toujours dans mon idée le fait que les écoles qui vont de Belle-Nou au collège Terre-Rouge aujourd'hui ne sont plus en ZEP. Et c'est dans ces quartiers-là et c'est dans ces écoles-là que les enfants sont plus touchés par des temps hors scolaire non occupés à des activités. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un projet dans le cadre du contrat de ville qui ne remplacerait pas les activités dans l'aménagement du rythme puisqu'elles se feraient hors temps scolaire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir pour qu'au moins ces écoles-là puissent encore pour que les enfants de ces écoles-là puissent être avoir des activités de manière...
C'est notre projet, Mme Perrin. Hein. C'est vraiment là-dessus que nous misons. Hein. C'est vraiment notre volonté. De toute façon, vous le savez, on a toujours voulu faire bénéficier les écoles de la géographie prioritaire hein, d'aides particulières. Hein, oui.
Mais le problème, c'est que si ça se fait juste dans le cadre du contrat de ville, il y a des enfants qui n'auront pas... le cadre de l'école permettait aux familles... de laisser les enfants plus facilement, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire
sûr,
au niveau
oui.
de l'accès.
Mais
voilà.
De toute façon, vous savez bien qu'avant la réforme des rites scolaires sur Épernay, il y avait déjà des activités périscolaires qui étaient fort intéressantes. Donc là, on va... C'est ce que les parents m'ont dit. Moi, je n'étais pas...
Il y avait des activités périscolaires, maintenant, fort intéressantes. Il y a quand même la barrière... la barrière du coût de l'activité.
Oui, mais voilà. On va continuer dans ce sens et on va continuer. Il y aura vraiment une continuité en ce qui se fait actuellement et ce qui se fera l'an prochain, et en particulier en favorisant les écoles de la géographie prioritaire. Mais vous savez qu'on y fait très très attention. Avec le biais de la réussite éducative, il y a vraiment un travail conjoint entre les directeurs d'école, les professeurs et la réussite éducative pour trouver véritablement l'aide particulière qu'il faut pour chaque enfant. Vraiment, il y a des réunions très très fréquentes et on continuera dans cette voie et en axant au contraire davantage, en donnant priorité... puisqu'il y aura toujours de l'éducatif par la ville le soir, hein, en donnant priorité à ces enfants, en leur trouvant véritablement des activités ludiques mais éducatives qui seront véritablement au bénéfice de leur réussite scolaire. Parce que c'était ça quand même l'objectif de la réforme, c'était favoriser la réussite scolaire, en particulier pour les enfants, défavoriser les enfants qui sont en échec scolaire. C'était la lutte contre l'échec scolaire. Et on va justement travailler dans ce sens-là. Alors, en
oui. un autre biais que celle
tout à fait, voilà. C'est ce qu'on va continuer à faire à la rentrée. Les élèves seront toujours accueillis dans le cadre du périscolaire, de toute façon.
Un mot sur ce point. Cette réforme est un échec retentissant.
Ah oui,
la manière dont elle a été conduite a conduit à son échec. Vouloir imposer à tous les enfants de France des changements de rythme scolaire, sans faire la distinction entre le monde rural, le monde urbain, entre les classes maternelles, les classes élémentaires, c'était du n'importe quoi. Elle nous a conduit dans le mur, et si sur la plupart des territoires, pas sur la totalité des territoires, mais sur la plupart des territoires, les élus, les conseils d'école s'en sont détournés, c'est bien parce qu'elle a été imposée sans concertation et dans des conditions absurdes. On parle d'accident industriel parfois, là c'est un accident éducatif, c'est malheureux à dire, parce qu'on a dépensé énormément d'argent pour une réforme qui a été un ratage total. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas effectivement travailler au soutien aux enfants en difficulté. Moi je suis assez réservé sur la notion de géographie prioritaire, parce qu'il se trouve qu'on a des gamins qui sont en échec en dehors des zones d'activité prioritaire, des zones d'éducation prioritaire, et qu'aujourd'hui on ne peut pas aider ces enfants parce qu'ils ont le malheur de vivre de l'autre côté de la rue. Et quand on fait un découpage de zones, de secteurs de réussite éducative ou autre, ou réseau d'écoles et de soutien style ZEP autrefois, réseau REP plus aujourd'hui, c'est discriminant parce que quelque part, c'est vrai qu'il y a une concentration plus forte d'enfants en difficulté dans les réseaux ou dans les secteurs considérés comme prioritaires, mais on a aussi, et notamment depuis l'opération de renouvellement urbain, toute une série d'habitants qui étaient autrefois à Bernon, qui n'habitent plus Bernon aujourd'hui, et qu'on arrête d'aider du jour au lendemain parce qu'ils n'habitent plus dans un quartier bénéficiant du réseau d'aide. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les individus, c'est-à-dire les enfants, les familles en difficulté, les enfants, où qu'ils habitent dans Épernay, ils doivent pouvoir bénéficier demain d'un dispositif de soutien. Et là-dessus, on a un débat avec l'État. l'État est globalement conscient des difficultés, mais a tendance, parce que les circulaires le prévoient de cette manière-là, et c'est vrai qu'on a cette fâcheuse tendance en France à pondre des circulaires en haut lieu qui sont pondus par des gens qui n'ont jamais foutu les pieds sur le terrain et dans un quartier, et dire qu'on ne peut aider les enfants que s'ils sont issus d'un quartier prioritaire, c'est totalement absurde. Ce qui compte, c'est est-ce que l'enfant est en difficulté ou est-ce qu'il ne l'est pas. Non, c'est pas ce que. Non, je ne fais pas référence à vos propos. Je dis simplement que le. Le contrat de ville, oui, d'accord. Oui, mais là, en l'occurrence, il s'agit. Voilà. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'utiliser les crédits du contrat de ville, parce que le contrat de ville, on n'est pas seul à décider de l'affectation de ces crédits. Mais je proposerai, en ce qui me concerne, que l'économie faite par le retour aux 4 jours soit réintégrée ou réaffectée à l'éducation et au soutien éducatif des enfants en difficulté. J'ai rien contre aujourd'hui les entreprises qui, tous les matins, à la radio, font de la publicité pour le soutien scolaire. Ils se sont développés parce que l'éducation nationale a échoué. Mais c'est révoltant de voir qu'en France, pays qui a toujours accordé beaucoup de place à son éducation depuis Jules Ferry et d'autres, il y ait ceux qui ont les moyens de se payer un soutien scolaire et ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer. Et ça, c'est proprement révoltant. Et s'il y a un combat qu'il nous faut mener, quelle que soit la sensibilité politique des uns et des autres, c'est de permettre à chacun d'accéder à la réussite éducative, à toutes celles et ceux qui souffrent de ne pas pouvoir suivre les cours à l'école, d'avoir une difficulté, quelle qu'elle soit, pour suivre et pour réussir, parce qu'on sait très bien qu'un gamin qui ne réussit pas à l'école, il s'engage dans la vie avec plus de handicap que celui qui réussit à l'école. Et si la notion de république a un sens, c'est en permettant à chaque enfant d'accéder aux mêmes chances de réussite et pas de pérenniser des situations d'une injustice totale parce qu'un enfant vit dans une rue qui est dans un secteur prioritaire et que son petit copain qui a les mêmes difficultés à l'école, il vit 2 rues à côté, mais lui, il n'est pas en secteur prioritaire et qui ne sera jamais aidé. Non, je sais bien. Je ne fais pas référence à vos propos, mais je dis que c'est la réalité aujourd'hui. Le système, il est totalement injuste. On a des écoles qui ne sont pas en secteur aide plus qui devraient l'être. On a une école comme l'école Vigne-Blanche, est une école qui a d'énormes difficultés, qui n'a pas les aides des autres écoles. Et ça a été fait de manière comptable.
Qui a des indicateurs les écoles en REP+.
Bien sûr. On a aussi des enfants qui sont en difficulté, qui vivent, pourquoi pas, en centre-ville ou dans les côtes ouest, mais il y a aussi des logements sociaux et des enfants en difficulté. Et c'est totalement injuste qu'on ne puisse pas aider ces enfants, parce que ce qui compte, c'est la réussite des enfants, c'est pas je suis aidé parce que j'habite un quartier. Même si, effectivement, sur bien des domaines, notamment au niveau du contrat de ville, on fait en sorte de mener des actions qui visent à faire en sorte que dans des quartiers d'habitat social dense, où se concentrent beaucoup de personnes en difficulté, il est normal qu'on ait par ailleurs des actions focalisées sur certains quartiers plutôt que sur d'autres. Mais s'agissant de la réussite des enfants, c'est les enfants qui comptent, c'est leur réussite. Et si on peut progresser en la matière, je suis preneur de vos idées, de vos suggestions, et je demanderai à Magali, mais elle le sait, de conduire une réflexion dans le cadre de cette commission pour qu'on puisse progresser en la matière au service des enfants d'Épernay, quel que soit leur quartier d'origine. Bien, je vous propose de... Oui.
Pour faire vite parce que la tension diminue, donc pour ma part, ce retour à 4 jours n'est pas pédagogique, mais du fait qu'on a consulté largement la population, la famille et les professeurs et qui ont voté massivement pour ces 4 jours, donc on ne peut que voter en faveur. Et puis je suis heureux de voir que vous allez financer l'éducation à 130 000 euros, puisque le gain ou la moindre dépense, donc c'est une très bonne nouvelle. Merci, monsieur le maire.
Nous passons donc au vote. Avis contraire, 2, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 4.1. Attendez, est-ce que j'ai... C'est ça, oui ? Oui, 4.1, Christine Mazzi.
Oui, c'est ça, merci. Donc il s'agit de subventions de compensation de mise à disposition du personnel municipal à destination d'associations. La tarification des coûts de mise à disposition du personnel municipal conduit à leur facturation aux associations et permet ainsi de préciser l'effort financier qui est effectué par la ville d'Épernay dans le domaine sportif. Toutefois, la trésorerie des associations concernées ne leur permet pas d'honorer ces factures. Je vous invite donc à approuver le principe du versement d'une aide qui compensera exactement le coût de mise à disposition du personnel municipal sur l'année 2017.
Vous avez le détail du rapport, c'est-à-dire les mises à disposition pour un certain nombre d'heures par semaine d'un certain nombre d'éducateurs ou d'agents de la ville. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.2. Je vous propose, dans le cadre du partenariat entre la ville d'Épernay et l'association Le Salmanazar pour l'organisation d'une représentation du spectacle Le Cirque Invisible par Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierry, les jeudis et vendredis 15 et 16 mars 2018 à 20h30, ainsi qu'une représentation du spectacle intitulé La Compagnie des Spectres par Zabou Breitman le mardi 17 avril 2018 à 20h30 au théâtre Gabriel Dorzia, d'approuver les projets respectifs de conventions annexés au rapport en votre possession qui précise les modalités de ce partenariat. Christian Demongin a dû nous quitter parce qu'il était attendu au théâtre. Donc je le présente ce rapport en son absence. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Une abstention. Rapport 4.3, retrait de commune du syndicat mixte de l'école intercommunale de musique d'Épernay de sa région. Lors du conseil syndical mixte de l'école intercommunale de musique d'Épernay de sa région du 20 décembre 2017, les communes suivantes ont demandé à quitter le CIMU: Champillon, Vanteuil, Bourceau, Binson-Orchigny, Saint-Martin-d'Ablois, Romerie, Fleury-la-Rivière, Villers-sous-Châtillon, Vaucienne et Reuil. Je vous propose donc d'approuver le départ de ces communes. Ça fait suite à une modification des statuts, nos statuts datés d'il y a plus d'une vingtaine d'années, qu'un certain nombre de communes étaient, on va dire, impliquées dans ce syndicat, alors même qu'elles n'avaient aucun enfant issu de leur commune dans cette école, mais les règles de l'époque créaient une forme de solidarité et impliquaient qu'elles financent un équipement dont elles, finalement, ne tiraient aucun bénéfice pour leurs enfants. Elles ont donc demandé à sortir. Il restera donc 7 communes du CIVU qui seront Épernay, Haï-Champagne, Mardeuil, Magenta, Euilly, Damery et Cormoyeux. Madame. Oui, c'était. Non, parce que toutes celles qui sortent n'avaient plus d'enfants à l'école de musique. Certaines attendaient depuis très longtemps pour sortir, mais tant qu'il n'y avait pas de réforme et d'accord sur les termes de la réforme, ils étaient en quelque sorte contraints de participer. Et donc, il a fallu un long travail, et Christian s'y est attelé avec beaucoup d'investissement personnel, pour trouver une solution équilibrée qui permette d'avoir des contributions qui soient proportionnées aux moyens des communes et qui permettent aussi de ne pas contraindre une commune qui n'a aucun enfant dans cette école d'y participer. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 5.1. Jonathan Rodriguez.
Non, je l'ai vu. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de prendre cette délibération, de signer cette convention qui nous permet d'acquérir à titre gracieux, l'État nous fait un cadeau, de 2 sirènes du réseau d'alerte nationale. Bon, ça ne change pas grand-chose à la réalité, puisque auparavant, nous avions déjà ces sirènes. Elles ne nous coûtaient pas cher en entretien, on les entretenait, mais ce n'était pas un grand entretien. Voilà. Donc, ce sera maintenant conventionné, ce sera à nous. On continuera l'entretien qui ne nous coûte pas grand-chose, finalement.
Est-ce que je pourrais maintenant utiliser cette sirène pour m'adresser à la population ?
Tu peux, ferme.
Non, les sirènes existaient partout, mais moi, j'ai toujours un regret concernant ces sirènes.
Il n'est pas au bout de la blague.
Ah.
C'est pas les mêmes sirènes, non, c'est plus...
Quand on doit en avoir dans la peine d'ailleurs en ce moment, parce que ça continue comme ça, on aura des sirènes bientôt. Je regrette qu'une chose en ce qui me concerne, c'est un souvenir d'enfance, mais je suis nostalgique de ce souvenir. Quand j'allais avec mon père à Boulogne-sur-Mer à la cérémonie du 11 novembre, à 11h, les sirènes se déclenchaient parce que c'était l'heure de l'armistice. Et ça allait en écho avec la trompette du poilu qui a sonné l'armistice. Et je trouverais normal que dans toutes les villes de France, à 11h, le 11 novembre, on célèbre par cette simple sonnerie, parce que tout le monde l'entend et tout le monde se dira, voilà, il y a 100 ans, Cette année, ce sera une initiative à faire. Il y a 100 ans exactement, jour pour jour, à la minute près, cette horreur qui a été la Première Guerre mondiale s'arrêtait. J'espère qu'on sera entendu, qu'on aura la possibilité de le faire.
On pourrait le faire, je pense. Hein.
Ouais.
On le pourrait faire.
Et je pense que ce serait utile parce que c'est aussi un moyen de... Cette sirène, elle était autrefois utilisée pour des questions de secours. Aujourd'hui, d'autres moyens existent. Mais symboliquement, la sirène qui retentit au moment de l'armistice à 11h, je trouve que c'est fort et que moi, c'est, personnellement, ça m'a toujours laissé... ça m'a toujours fait quelque chose.
Non.
Non, depuis quelques années, elle ne fonctionne plus.
Non,
avant, c'était effectivement
c'est
le
pour
premier
ça qu'il y a
mercredi
plus
du mois à midi.
Il n'y a plus ce réseau d'alerte. C'est pour ça qu'on n'a plus le fonctionnement de... L'État, je ne sais plus à nous de faire, voilà. Donc, pour notre ville de notre taille, c'est pour ça qu'on ne l'entend plus. Mais elles sont toujours là, elles sont toujours en état de fonctionnement, mais c'est plus obligatoire. Donc, maintenant, on l'entendra une fois le 11 novembre à 11h maintenant. Ça sera...
Bien, sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.2, Anne-Marie Legras.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de procéder à la session à la région Grand Est d'emprise foncière omise lors du transfert du terrain d'assiette du lycée et demeuré dans le patrimoine de la ville. Une partie des parcelles concernées étant sur le domaine public a vocation à rester propriété de la ville. Cette cession à titre gratuit nécessitera donc l'intervention du géomètre dont les frais devront être supportés par la ville. Donc il s'agit d'une régularisation.
Merci. Pas d'opposition. Oui, madame.
Lycée Stéphane Hessel, maintenant, il est sur deux sites.
Oui.
Le site de Godard et le site de Léon Bourgeois. Et c'est la même chose, enfin...
Oui, c'est une seule entité juridique.
D'accord.
Il y a un seul proviseur.
Donc, ça concerne les deux espaces, en fait, la dotation...
Ça concerne l'entité.
Oui, ces deux lycées n'en font plus qu'un. Il n'y a qu'un seul conseil d'administration, il n'y a qu'un...
Oui, ça, je sais, mais dans la tête des gens, il y a encore bien séparation quand même entre les deux.
Oui, mais il y a des lycéens qui ont tantôt un cours dans l'un, tantôt un cours dans l'autre, et puis certains qui ont une dominante sur un des deux établissements, mais ça fonctionne plutôt bien. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Rapport 5.3, Anne-Marie.
Chers collègues, je vous propose de procéder à l'acquisition d'une emprise foncière de 591 mètres carrés située à l'arrière de la propriété du château Perrier et nécessaire à la création d'une rampe d'accès. Cette emprise, actuellement propriété de Plurial Novilia, serait acquise au prix de 50 euros le mètre carré, soit 29 550 euros. La ville aurait en outre à sa charge la création d'un grillage séparatif ainsi que l'aménagement de l'espace vert aux abords de la parcelle.
Oui, c'est un point important parce que c'est par là qu'on aura notre rampe d'accès, notamment pour les personnes à mobilité réduite, l'accès au musée. C'est également par l'arrière que les accès de sécurité pour les véhicules de pompiers existeront parce que, évidemment, la caractéristique de la grille sur l'avenue de Champagne ne permettait pas à un camion de pompiers d'entrer par l'avenue de Champagne. Il aurait fallu démonter la grille, la transformer. Or, cette grille fait partie de l'ensemble qui est classé au monument historique et donc un accès secours par le parking le parking de l'ex-MJC sera autorisé pour les véhicules de secours et pour l'accès d'un certain nombre de visiteurs du musée. Pas d'opposition? Oui.
Oui, nous sommes partenaires privilégiés avec Plurial. On leur a déjà donné des terrains gratuitement. Là, je pense qu'ils pourraient renvoyer la balle et nous donner ce terrain qui ne leur sert pas actuellement.
Mais on va proposer peut-être à Plurial Novilia d'être mécène du musée. Comme
Oui. C'est ce que je vous propose.
C'est ce qu'on a dit à la commission.
Je l'ai déjà dit, oui.
On a dit que la commission avait abondé un peu plus que les 25 000. Et on ne leur vend pas parfois...
On leur vend 20 ou 30 euros, on ne leur vend pas 50 euros hein, le mètre carré.
Mais c'est l'estimation des domaines. Hein, là-dessus, on est tenu par la... avis contraire sur ce rapport? Contre? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.4. Jonathan.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'approuver la signature d'une convention entre la ville d'Épernay et GRDF qui nous propose du mécénat. Alors, on est dans la transition énergétique, évidemment. Donc, il y a 7 kits de... de pédagogique pour les enfants autour des énergies renouvelables, autour de la transition énergétique qui sont proposées. La valeur totale de ces lots est de 770 euros hors taxe, donc c'est du mécénat à 100% qui nous est donné pour nos périscolaires et éventuellement nos écoles sparnassiennes.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 5.5. Jonathan.
Merci. Oui, le premier règlement d'attribution des subventions pour les vélos électriques est arrivé à son terme. C'était jusqu'en 2018. Donc, on vous propose de renouveler pour 2018, 2019 et 2020. Donc, d'attribuer encore 150 euros aux sparnassiens qui font l'acquisition d'un vélo électrique neuf. Et la nouveauté de ce règlement, c'est qu'on étend ce dispositif aux agents de la ville, du CCS et de la Caisse des écoles, même si ceux-ci ne sont pas sparnassiens, ils pourront bénéficier de cette subvention. Ils nous feront une déclaration en échange d'utiliser ce vélo électrique pour venir au travail, pas forcément tous les jours, mais l'utiliser régulièrement pour venir au travail. Voilà. Donc on garde les mêmes termes, 150 euros. Contrairement à l'État, nous on maintient notre dispositif depuis quelques années. Donc ça fonctionne bien. On a eu sur ces 3 ans environ, j'ai pas les détails, mais on doit, sur les 3 dernières années, ça doit être 80 ou 90 subventions qui ont été versées à des sparnassiens pour acheter un vélo électrique. Donc ça marche bien. L'enveloppe est épuisée chaque année. Donc on imagine que ce sera pareil pour les années à venir. On a augmenté un petit peu, puisqu'on a ajouté les agents de la ville, on a augmenté un peu le budget cette année pour ces vélos. Voilà, donc on verra comment ça marchera, mais j'imagine que ça fonctionnera bien.
Et si l'enveloppe est épuisée, grâce au moteur électrique, les cyclistes ne le sont pas.
Exactement.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste le rapport numéro 6 concernant le compte-rendu de délégation prise par le maire par délégation du conseil municipal. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des questions à poser? Monsieur Lefebvre, peut-être? Non, je ne sais pas si... Oh, ça ne devait pas être bien important.
Comme toujours, monsieur le maire. Vraiment, c'était une très explication.
Bien. Bien, merci de votre participation. Bonne fin de soirée, à très bientôt. Oui, je vous demande de rester encore quelques instants pour signer les documents qui circulent.
C'est pas fini, t'as pas fini.